Bonsoir, bonjour, comment ça va? Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va? Bonjour en 2-2 avant d'aller au stream aussi. Salut. Bonjour, bonjour, bonjour. Trop chaud, je suis une flaque. Ah, il fait chaud chez vous aussi? Quelle température il fait là? 27 degrés, 28 degrés à Paris. Ah, c'est chaud. Ouais. Accident de voiture, mais ça va. Ah! Courage. Je veux déménager. Mais t'habites déjà dans le nord. Tu veux aller où? Tu peux pas aller plus au nord? C'est pas possible, hein. C'est des terres sauvages après, hein. Venez au Québec, il fait 8 degrés. Des terres brûlées. Alors, tous en Écosse. De l'autre côté du mur. Ouais, c'est ça, l'autre côté du mur. Ah non, non, non. Oh, attends. Bon, est-ce que vous passez une bonne journée? Est-ce que vous passez une bonne semaine? Je suis désolé, j'étais pas là lundi, mardi. Désolé, pardon. Excusez-moi, il est désolé. Il dit qu'il est désolé. Désolé, j'ai pas fait les QAG hier. J'ai raté les QAG. C'était bien? Vous avez regardé sans moi? C'est mieux quand je suis pas là, hein. C'est une absence injustifiée. Ah merde. Bah vous le mettrez sur mon carnet de correspondance. Très mauvaise semaine car je suis de plus en plus de LFIS dans ma... Car je vois de plus en plus de LFIS dans ma TL. Oh. T'inquiète. C'est sans saveur quand t'es pas là. Boycott sans l'absence du streamer. J'ai passé 2 heures devant l'écran offline de ta chaîne, c'était pas dingue. Pire semaine. Ça va Claire? Courage. Des bisous. Sans toi, personne ne regarde les QAG. Arrête. T'as pas stream et Twitch a décidé de tout faire péter. Ah ouais, j'avoue, Twitch, ils ont attendu que je stream pas pour annoncer des dingueries. Je pensais qu'ils annulaient les QAG quand t'étais pas là. Non. J'ai pas suivi, c'est passé quoi avec Twitch? Twitch, ils ont annoncé de nouvelles règles en matière d'annonces et de publicité. Enfin, des nouvelles règles. En fait, c'était des règles qui existaient déjà. Ils les ont clarifiées. Donc voilà, non, ils ont annoncé qu'il y avait un certain nombre de pratiques de publicité de la part des streamers qui n'étaient pas acceptées. En fait, il y en avait qui n'étaient déjà pas acceptées depuis un bout de temps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Twitch, comment dire? Twitch, ils ont une grosse part du gâteau puisqu'ils ont les subs. Ils ont 50% de l'argent des subs. Ils ont des publicités en pré-roll et en milieu de stream qui sont faites par Twitch, donc ils ont leur propre régie publicitaire. Ce qu'on appelle une régie publicitaire, je rappelle, hein, c'est un truc commercial où ils vendent des espaces publicitaires et ils les mettent sur Twitch. Donc quand vous lancez un stream et que vous n'êtes pas abonné, vous avez des pré-rolls, des trucs comme ça. Et ensuite, nous, les streamers, on est incités à mettre davantage de publicité sur nos streams et on est incités financièrement par Twitch qui nous propose des contrats sur un mois en nous donnant des revenus minimum garantis. Machin truc. Bref. Une fois que je vous ai dit ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a tout un pan de l'économie de Twitch sur laquelle Twitch ne gagne pas du tout d'argent. Ça leur passe complètement sous le nez. C'est toutes les OPSP que font les streamers. Quand un streamer accepte de jouer à un jeu vidéo payé par un développeur, ça passe pas par Twitch. Twitch ne voit 0 euro de l'opération. Donc c'est une utilisation de Twitch dans lequel l'annonceur est content parce qu'il présente son jeu vidéo et le streamer est content parce qu'il touche de l'argent. Mais Twitch, au milieu, il touche que dalle. Donc Twitch, depuis longtemps, essaye de mettre la main sur ce marché-là, qui est un marché important. Et ils ont commencé par développer leur propre service de sponsoring de jeux vidéo. Ça s'appelle le tableau des offres, qu'on appelle aussi les Bounty Twitch, où Twitch passe des accords avec des développeurs de jeux, des éditeurs, en leur disant on peut vous mettre en relation avec des streamers qui vont jouer à votre jeu pendant un temps devant un certain public, etc. Donc ils font de la masse et ça s'appelle des Bounty Twitch. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ça marche. Alors, je suis incapable de vous dire si ça marche bien, ça marche pas assez bien, dans le sens où est-ce que Twitch est content, est-ce que les développeurs sont contents, je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment ça. J'en sais rien, moi j'en ai jamais fait, puisque moi je fais pas de jeux vidéo, donc on m'en propose jamais. Parce que du coup, Twitch, nous les streamers, on a un tableau des offres. C'est un peu comme un truc de petites annonces, hein, où on dit, tiens, en ce moment, si ça vous intéresse, hein, il y a tel développeur de jeu qui vous propose tant d'argent si vous jouez tant de temps à leur jeu. Vous cliquez sur accepter ou refuser. Et l'argent vous est versé automatiquement par Twitch si vous cliquez sur accepter et que vous remplissez votre part du contrat, etc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, moi j'en ai jamais fait, mais bon, peu importe. Et qu'est-ce que je voulais dire? Leur faut trouver une valeur ajoutée là-dedans, sinon pas d'intérêt. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais en fait, il y a tout un marché qui leur échappe, du coup, ils veulent mettre la main dessus, quoi. La fameuse Bounty de Zerator, 15 000 euros pour 79 000 viewers. 79 000 viewers, faut les faire, les 79 000 viewers. C'est des vues uniques ou c'est des nombres de viewers? 79 000, c'est pas facile. En vue unique, si, c'est facile, mais. Merci Claire, I'm your sugar daddy. Thank you, Lali. Nombre moyen? D'accord. Oui, bah ça, oui. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc voilà, donc tout ça pour dire que Twitch, ils ont annoncé de nouvelles règles vis-à-vis des publicités. Enfin, vis-à-vis des OPSP que font les streamers. Et ils ont annoncé qu'il n'y avait plus le droit de faire des pages de publicité natives hors Twitch. Mais ça, c'était déjà un truc qui ne se pratique pas. Qui était. J'ai pas le droit de vous lancer une vidéo d'une pub tourné par un développeur avec qui j'aurais signé un contrat en mode t'inquiète, je diffuse des pubs, etc. En gros, Twitch a le monopole de la page publicitaire sur Twitch. Vous n'avez pas le droit d'en rajouter vous-même, quoi. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est sur la taille des bandeaux. Parce qu'il y a des streamers qui mettent des bandeaux publicitaires. Ça, je crois qu'ils ont dit que c'était interdit maintenant. Ensuite, il y a les logos. Vous savez, il y a certains streamers qui ont un logo partenaire. Et la taille du logo ne doit pas faire plus de 10% du total de l'image. En gros, vous avez le droit à un bug. Ce qu'on appelle un bug en audiovisuel, c'est un bug antenne, par exemple. C'est quand vous diffusez sur France 2, il y a toujours le petit 2 de France 2 qui est en haut à droite de l'image sur toutes les émissions France 2. J'ai dit quoi? 10%? 3%. Excusez-moi, 3%. 3%. Donc vous avez le droit à un bug, mais vous n'avez pas le droit à un énorme logo avec le nom du partenaire, etc. C'est 3%, c'est pas 10, excusez-moi. Voilà. Il y a une exception à ça, c'est si vous affichez, si le logo du partenaire est dans votre décor. Genre par exemple là, le Toxic Avenger, je suis pas payé hein, pour mettre le vinyle de Toxic Avenger, mais le Toxic Avenger qui m'a envoyé son vinyle dédicacé, bah, je sais pas si ça fait 3% de l'image, mais de toute façon ça pourrait faire plus, j'ai le droit. J'ai le droit de porter un t-shirt d'une marque si c'est pas sponsorisé, Twitch, voilà. Ça annule tous les événements sur Twitch, pas de sponsor, pas de multicast. Ouais, non, mais justement, ils sont en train de. En fait, tout. Donc, bref, Twitch, ils ont sorti ce truc-là sans consulter personne, comme d'habitude avec Twitch. Les décisions ont été prises, on ne sait pas par qui. Ça a été pubé, on ne sait pas comment. Du coup, Twitch, ils sont en train de backdash en mode non, attendez, on va revenir en arrière, on va réécrire, c'est mal écrit. Effectivement, c'est très mal écrit. Donc, ils vont revenir dessus, ils vont expliquer qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Comme d'hab. Je reviens dans le public demain, je suis refait par la programmation. Ah, trop cool! Eh ben, venez dans le public demain de Backseat. Venez, il reste des places, un hein, point d'exclamation place dans le chat. Venez, c'est de 18h30 à 22h dans le quartier Gambetta. Et le buffet est offert. Venez. En échange d'un don de 49,30 € au financement de l'émission, vous pouvez venir. Franchement, c'est mieux qu'une soirée théâtre. Et Les négociations de ces règles ont dû être dures à négocier avec les personnes concernées. Rassurez-moi, ça a été négocié. Non, ça n'a pas, absolument pas été négocié. Est-ce qu'il y aura un backseat le 22? Oui. Oui, il n'y aura pas de backseat le 15, parce qu'à la place, je vous propose une autre émission. C'est une OPSP en l'occurrence. Un partenariat cool qui aura lieu le 15. À la place de backseat, donc, il y aura une chouette émission. Enfin bref, donc tout ça pour dire que Twitch, ils ont annoncé des règles, que ça a fait gueuler tout le monde parce que c'est n'importe quoi, et que du coup, ils ont dit, ah ouais, non, mais désolé, on va revenir dessus. Voilà, c'est tout. Donc, ça a été le drama de la journée. Je peux venir le 22. Ouais, viens, Claire, ouais, carrément. Possible de prendre des places pour le 22. Elles sont pas encore ouvertes, mais on va les ouvrir, ouais. On va les ouvrir. Et en plus, la traduction française des règles, elle est pourrie. Enfin, en plus, ils ont rajouté une ligne en disant qu'il est interdit de faire des partenariats. Alors, il y a des partenariats qui sont interdits, hein. Il y a des partenariats qui sont interdits sur Twitch. Vous n'avez pas le droit de faire des partenariats pour des jeux d'argent, pour des casinos en ligne. C'est pour ça que Kick a été créé par des casinos en ligne pour vous arnaquer, évidemment, parce qu'ils ont un intérêt direct, parce qu'ils n'ont plus le droit de faire de la pub sur Twitch. Vous n'avez pas le droit de faire des partenariats pour des armes à feu, vous n'avez pas le droit de faire des partenariats pour des trucs qui incitent à la haine, vous n'avez pas le droit de faire des partenariats pour le tabac, la drogue, etc. Bon bref, il y a des trucs assez évidents. Et ils ont rajouté un truc en disant qu'il est interdit de faire de la publicité pour des partis politiques, pour des politiciens, je cite, ça ne veut rien dire politicien, mais il y a écrit politicien. Et vous n'avez pas le droit de faire des partenariats pour des... Comment ils l'ont écrit? Pour des enjeux de débat public. Moi j'ai dit pardon. J'ai dit quoi? Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Du coup je les ai eu au téléphone, ils m'ont dit non mais t'inquiète. En fait rien ne change par rapport à d'habitude. Évidemment que tu vas pouvoir continuer à faire des partenariats, t'inquiète. Ils m'ont dit, ils m'ont dit nous-mêmes Twitch, on fait nous-mêmes des pubs pour des trucs d'enjeu public, genre des institutions, etc. Donc t'inquiète, voilà. Genre, il y a littéralement des pubs pour l'armée. Engagez-vous.fr sur Twitch. Donc, ils vont pas interdire aux streamers de faire des partenariats avec des trucs. Genre, surtout débat public, ça veut rien dire. Enfin, bref. Ils m'ont rassuré, ils m'ont dit, t'inquiète, t'inquiète, on va réécrire le truc. C'est une vieille tradition. C'est une vieille traduction pourrave en français. C'est qui l'Hurluberlu qui a écrit ça? J'en sais rien, mais comme d'habitude, hein. C'est des gens en costume cravate qui comprennent rien, qui connaissent rien et qui ont une vision de ce que veut dire le mot politique, qui est absurde. Voilà. C'est Twitch France qui fait ça ou c'est Twitch en général? Ah non, c'est Twitch en général. Non, c'est Twitch en général. Ce sont pas les problématiques US qui ont été traduites salement. Si, mais c'est, enfin, il y a aussi un risque d'anticipation. C'était la tribune que j'avais publiée dans le JDD qui expliquait justement que. Qui expliquait justement qu'il y a un risque, enfin selon moi, il y a un risque que la régulation des contenus sur Internet, pour de très bonnes raisons au demeurant, se retrouve à fabriquer un monstre avec des régulations de ce type-là. Genre, interdit de faire la publicité pour des enjeux de débat public, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'en profite pour vous dire que demain, nous avons un before de backseat sponsorisé par Médecins du Monde. Voilà. Très bon exemple. On va parler de l'accueil des réfugiés. Avec l'association Médecins du Monde. Voilà. Très bon exemple. Très bon exemple. Moi, j'ai fait des contenus sponsorisés par le Parlement européen. J'ai fait des... En fait, tous mes sponsors, c'est sur des enjeux de débat public. Moi, j'ai toujours fait des sponsors sur des enjeux de débat public. Donc, je veux dire, si tu m'empêches de faire ça, et de te dire, bon, bah. Même si on voulait commencer à être un peu pinailleur, on pourrait dire que NordVPN, techniquement, c'est des enjeux de débat public. La protection des données sur Internet. Je ne sais pas ce que c'est si ce n'est pas un enjeu de débat public, un enjeu d'actualité politique, un enjeu public, un enjeu politique. C'est un enjeu politique. Et Red Shadow Legends, compliqué à trouver. Mais on peut trouver. On peut trouver. Si on essaye de creuser un peu, je pense qu'on peut trouver de la politique partout. T'as fait des pubs pour ton bureau et ta chaise aussi. Ah oui, tiens, quand je vous expliquais que la chaise, c'est important d'avoir une bonne chaise de bureau parce que ça protège vos lombaires et ça évite les mal de dos. Qu'est-ce que c'est si c'est pas un enjeu politique, Sarah? Faire de la prévention en santé publique sur le mal de dos? Ah bah alors? Le jeu vidéo en tant que première industrie du divertissement, c'est sacrément un enjeu public. C'est vrai ça, le jeu vidéo? Quand on incite les gens à jouer aux jeux vidéo? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'incitation de la pratique vidéoludique pour la culture, pour l'e-sport? J'ai un poil là. Bizarre. On encourage la culture. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc bref, bon, tout ça pour dire on s'en fout. Tout ça pour dire on s'en fout. Pour l'instant, ça va rien changer pour moi. Je vais pouvoir continuer à vous proposer des partenariats avec des institutions publiques pour parler d'enjeux publics parce que c'est ça qui m'intéresse. Même quand Bouygues Télécom, ils viennent faire un bifort sur Baxit, on en fait un bifort sur des enjeux politiques autour de Bouygues Télécom. C'est vous dire à quel point je suis pète burne, moi, avec ça. Plutôt que de vous vendre des forfaits téléphoniques, je préfère parler avec Bouygues Télécom de l'accessibilité au numérique dans les territoires les plus reculés, de la féminisation des métiers de la tech, de la cybersécurité et de la formation de l'insertion professionnelle des jeunes. Voilà. Même Bouygues Télécom, j'arrive à en faire un truc politique. Je suis trop chiant avec ça. Donc bref, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens d'empêcher la publicité là-dessus. Ils n'y arriveront pas, c'est absurde, c'est débile. Même Twitch, ils le font. Au final, tout est politisable. Je sais pas si tout est politisable, en tout cas moi je me démerderais pour essayer de toujours tout politiser. Parce que je suis très chiant avec ça, vous me connaissez, hein, moi je suis chiant. Hein. Moi je suis là pour essayer de vous intéresser à la politique. J'essaye d'en trouver absolument partout de la politique. Donc voilà. La revue d'actu a commencé ou ça a digressé fort? Oh, hey, oh, ça va là! Hey, on se dit bonjour, il est 19h du matin. On papote, comment ça va? L'eau petit chat va bien? Oui, l'eau petit chat va bien. Maintenant, ça y est, avec l'eau petit chat, on fait des jeux de regard. Ça y est, on commence à se regarder avec le petit chat. Elle a toujours peur, mais on se met à 3 mètres de distance et tout. Je m'assois par terre et puis je bouge pas. Et puis elle me regarde comme ça. On est en phase de regardage. Donc c'est cool. Est-ce que c'est politique le jeu avec le chat? Tiens, c'est vrai ça, est-ce qu'un chat c'est politique? Est-ce qu'il y a une différence entre politique et idéologie? La politique, c'est pas réservé aux institutions. Le mot politique désigne énormément de choses différentes. Disons que ça désigne un champ très large dans lequel tu vas retrouver des enjeux institutionnels, des enjeux de politique publique, des enjeux électoraux, des enjeux philosophiques et idéologiques. Voilà. Et tout ça, c'est politique. C'est la politique. Ça désigne l'ensemble de ça. Donc quand on utilise le mot politique, souvent on a des représentations faciles, et c'est normal, autour des enjeux de personnes, de partis politiques et d'élections. Spontanément, c'est un peu la première approche qu'on a. Ensuite, dans un second temps, on a des enjeux liés au pouvoir, souvent au pouvoir national, le président de la République, le gouvernement, la loi et les débats qu'il y a autour. Dans un troisième temps, on va avoir des enjeux autour de ce qu'on appelle les politiques publiques au sens très large du terme. Sécurité routière, santé, éducation, armée, sécurité, immigration, etc., économie, sociale. On peut aussi avoir des trucs autour du débat philosophico-politique, autour des idéologies, de tous les ismes, du nationalisme, du communisme, de la social-démocratie, de l'écologisme, etc., du centrisme, machin. Voilà. Donc c'est très grand la politique, hein. Et si on veut pinailler, comme diraient les marxistes, tout est politique. Donc on peut s'amuser à avoir de la politique partout. Ça dépend comment vous en... Ça dépend de ce que vous appelez de la politique. C'est une manière de voir les choses. Mais on peut trouver de la politique dans absolument tout, si on cherche, si on voit le monde à travers des rapports de force politique, ce qui est le cas des matérialistes que sont les marxistes. Et ben il y a de la politique partout. Le t-shirt que vous avez choisi de mettre ce matin, c'était un choix politique. Eh ouais, vous vous en êtes même pas rendu compte, mais vous avez fait un choix. Et ce choix était politique, il était dicté par un ensemble de contraintes d'ordre socio-culturel qui a fait que vous avez préféré mettre ce t-shirt-là plutôt qu'un autre. L'amour, c'est politique. L'amour, c'est politique. L'intime, c'est politique. Le privé, c'est politique. Voilà. Donc il y a plein de gens qui voient ça comme ça, et ils n'ont ni tort ni raison, hein, c'est un angle de vue. Mais du coup, c'est quoi la politique? La politique, c'est tout ça en même temps, hein. La politique, c'est tout ça en même temps. Il n'y a pas besoin d'avoir une définition plus précise que ça. La politique, c'est un vaste champ sur lequel tout le monde n'a pas le même regard. Et encore une fois, personne n'a raison, personne n'a tort. Est-ce que la politique, c'est politique? Moi, je pense qu'il faut dépolitiser la politique. C'est important. Il faut déshumidifier l'eau. Si tout est politique, alors rien ne l'est. Ah, c'est un peu le risque. Bon, je pense qu'il faut qu'on dépolitise ce stream. Et je vous propose qu'on fasse une revue d'actu politique. Nous ici, on fait pas de politique, hein. Est-ce que la politisme existe? Pour ceux qui y croient, oui. Enfin, c'est toujours pareil. Pas besoin de savoir, pas besoin de définir objectivement si ça existe ou pas, hein. Wow! Moustique qui offre 10 subs au chat!
Des thunes, je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup Moustix pour les 10 subs offerts au chat. Merci, c'est très généreux de ta part, merci beaucoup. Merci, c'est très politique. C'est éminemment politique. Merci IC Fox pour ton Prime, merci. J'aime beaucoup l'idée de considérer la politique comme un champ dans lequel on peut faire entrer à l'envi tout ce qui tient à l'organisation de la vie des humains dans un lieu. Oui. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'être tous d'accord sur ce qui relève de ce champ et ce qui n'en relève pas. Il n'y a pas besoin d'avoir une définition universelle, absolue, objective de ce qu'est et de ce que n'est pas la politique. Voilà. Si on veut. C'est pas grave. C'est comme, pardon, hein, pour la philosophie. Après, promis, on va lire des articles. Hein. C'est comme, est-ce qu'on a besoin d'être objectivement tous d'accord sur l'existence de Dieu? Bah non, pas besoin. Est-ce que Dieu existe? Bah pour ceux qui y croient, oui. Pas pour les autres. Voilà, c'est tout. Fin de la discussion. Ou comme disait, c'était saint Thomas d'Aquin ou c'était saint Augustin? Non, c'était saint Augustin, je crois. Il disait la connaissance de Dieu ne relève pas de justement de la connaissance, mais de la foi. C'est une manière un peu plus subtile de dire exactement la même chose. Dieu existe pour ceux qui y croient. Voilà. Fin du débat. C'est pas grave. C'est saint Thomas d'Aquin qui disait ça? C'est probablement saint Thomas d'Aquin, ouais, sur la connaissance de Dieu. Donc bon, après, si tu veux, l'apologétique, c'est sympa 5 minutes, mais... pas grave, hein. La différence entre Dieu et la politique, c'est que même si tu t'occupes pas de politique, la politique s'occupe de toi. Ah, je pense que la politique existe indépendamment de ta foi dans la politique, mais tu n'es pas obligé de reconnaître comme étant politique des choses que tu ne considères pas comme étant politique. Ouais, c'est pas grave. Juste un point très rapide sur le programme avant de lire des articles. Demain, Backseat à 19h avec un before avec Médecins du Monde. On va parler de l'accueil des réfugiés. On va faire un before un peu exceptionnel qui va durer un peu longtemps, etc. Notre invitée politique, ce sera Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT. On sera au cœur de l'actu parce que ce sera les débats sur la loi Liotte, etc. Sur la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Et la dernière journée de mobilisation, c'était hier, le 6 juin. Donc ce sera intéressant d'interviewer Sophie Binet pour avoir sa lecture de l'actualité politique autour de la réforme des retraites, mais même plus globalement autour du mouvement social et de l'activité du gouvernement. Demain matin, je fais le stream de la niche parlementaire de Liotte. Donc rendez-vous à 9h du matin en stream pour suivre ensemble les débats parlementaires. Donc demain, grosse journée de stream. Hein. Tac, tac, tac. Vendredi, je suis à Lyon. J'ai été invité par Kenny pour le skate tour. Je vais faire du skate avec des pros. Je ne serai pas tout seul. Il y aura Bagheera Jones, il y aura Ponce, il y aura des gens extraordinaires. On va faire du skate à Lyon. Ce week-end, pas de stream, ou alors du gaming peinard. Et puis voilà. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Attends, est-ce que j'ai oublié des trucs dans le calendrier? Eh non, c'est ça. Demain matin à 9h, Assemblée nationale, toute la matinée. Je pense qu'on n'ira pas au-delà de la matinée, on verra. On verra, on verra, on verra. Ensuite, Backseat à 19h. Vendredi, skate à Lyon. Donc ce sera en stream sur la chaîne de Kenny. Et voilà. Ok. Du coup, alors parlons-en justement demain. Demain. Demain, le groupe Liotte, Liberté indépendant, Outre-mer et territoire, dont nous avons fait, je vous rappelle, sur le plateau de Backseat, il y a 2 semaines, l'interview de Charles de Courson et de Olivier Servat, deux députés qui sont venus vous parler de Liotte, de son positionnement, de sa loi d'abrogation et du parti politique qu'ils entendent créer. Demain, Liotte donc va défendre sa niche parlementaire. Et comme vous l'a très très bien expliqué le youtubeur Jean Massier dans une vidéo qui date d'il y a 2-3 semaines maintenant, le scénario qui était anticipé par Mediapart s'est finalement réalisé. C'est-à-dire que l'article 1 de la proposition de loi Liotte a été retiré en commission, a été voté, enfin, a été. Oui, c'est ça, la commission des affaires sociales a dégagé. à dégager l'article 1. Ce qui fait que si les députés veulent rediscuter de l'article 1 de la proposition de loi, ils doivent déposer un amendement de réintroduction demain en séance publique. Or, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a le pouvoir, si elle le souhaite, de déclarer irrecevable un amendement de réintroduction au titre de l'article 40 de la Constitution. Il se trouve que ce matin, sur BFM TV, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a confirmé qu'elle jugerait irrecevable d'éventuels amendements de réintroduction. D'ailleurs, elle l'a fait là dans l'après-midi. Donc, c'était le scénario redouté par les opposants. C'était le scénario anticipé par les observateurs. Oui, le gouvernement, la majorité, Yael Braun-Pivet fait bien partie de la majorité, fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale sur l'abrogation de la réforme des retraites. Le gouvernement, la majorité, veulent éviter l'humiliation d'avoir le symbole d'un vote négatif, d'un seul et unique vote sur la réforme des retraites, négatif, c'est-à-dire contre la réforme des retraites. Est-ce que ça va créer un précédent? C'est le risque. C'est le risque, effectivement, que ça crée un précédent sur les propositions de loi. Rappelons que l'abrogation n'aurait eu aucune chance de passer au Sénat. Oui, absolument. Rappelons également que ce n'est pas très grave que la proposition de loi ait peu de chances de passer au Sénat. Ce que voulaient les députés, ce n'était pas tant qu'elle passe au Sénat, qu'il y ait quand même un vote à l'Assemblée nationale. Le seul symbole d'un vote de rejet de la réforme des retraites était un symbole suffisant politiquement pour les opposants à la réforme des retraites. C'est terrible pour l'image du Parlement. Ah, ça certainement. Ça certainement. Alors, il y a un article d'analyse du coup de Le Monde. Le Monde donc a un article d'analyse sur ce sujet autour de justement Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet, une présidente de l'Assemblée prise entre deux feux. Alors, on va lire cet article et on va en discuter. La présidente de l'Assemblée nationale a déclaré mercredi qu'elle allait juger irrecevable des amendements de réintroduisant l'abrogation du recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Les oppositions lui reprochent de manquer d'indépendance. Pressée de toutes parts, Yaël Braun-Pivet n'a pas transigé. La présidente de l'Assemblée nationale a annoncé, mercredi 7 juin sur BFM TV, qu'elle allait déclarer irrecevable dans la journée, au titre de l'article 40 de la Constitution, les amendements des oppositions réintroduisant l'article 1er de la proposition de loi du groupe Liotte, où figure l'abrogation du recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous? Parce que c'est normal que ce soit pas clair, hein. C'est technique, c'est de la procédure, etc. Mais si vous avez bien suivi les précédents épisodes, si vous êtes abonné à la chaîne Twitch de Jean Massier, normalement, c'est limpide jusque-là, vous avez compris où on en est dans la procédure, etc. Normalement, ça devrait être bon. Oui, capitaine, c'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Peut-on qualifier la France de proto-démocratie illibérale? Si on veut, oui. On peut l'argumenter. Bon, ça a l'air d'être clair pour la plupart d'entre vous, donc on continue. Cette disposition constitutionnelle empêche les parlementaires de créer, à travers des amendements ou des propositions de loi, toute charge financière pour l'État sans que celle-ci soit compensée. Ça, je vous l'avais expliqué. Estimant le coût de l'abrogation de la réforme des retraites entre 15 et 20 milliards d'euros à l'horizon 2030, le camp macroniste exhortait depuis plusieurs semaines la présidente de l'Assemblée nationale à enterrer la proposition soutenue par la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPES, le Rassemblement national et une partie des élus les Républicains. Pour Madame Braun-Pivet, cet article premier n'aurait jamais dû être examiné parce qu'il est créateur de charges. Je dis halte là. Je suis présidente de l'Assemblée, je dois m'assurer que les débats sont conformes à nos règles, a-t-elle déclaré mercredi sur BFM TV. Alors jusque-là, c'est vrai, mais justement, toute la subtilité est dans la décision de savoir qui crée les règles et qui les écrit. Et quelles sont ces règles? Le recours à l'article 40 vide donc de sa principale mesure la proposition de loi qui doit être examinée jeudi 8 juin en séance publique dans le cadre de la niche parlementaire de Liotte, lors de laquelle les textes du groupe sont à l'ordre du jour jusqu'à minuit. Ce groupe hétéroclite de 21 députés dénonce dans un communiqué publié mercredi matin une décision prise sous la pression de l'exécutif, qui constitue une attaque inédite contre les droits du Parlement. les Insoumis poussent de leur côté pour le dépôt d'une nouvelle motion de censure transpartisane visant à renverser le gouvernement. Les Insoumis, depuis la rédaction de cet article dans Le Monde, on a appris que les Insoumis avaient déposé une nouvelle motion de censure. Je crois pas qu'elle soit transpartisane, mais il y a bien une nouvelle motion de censure qui a été déposée par les Insoumis. Ouais. Mais la décision de Madame Braun-Pivet, qui vient déjuger celle du président insoumis de la commission des finances Éric Coquerel, sonne le glas d'une intense bataille de procédure entre opposants et partisans du texte de Liot. Les premiers défendant la pérennité du système de pension tout en craignant être mis en minorité dans l'hémicycle, quand les seconds entrevoyaient la possibilité d'un vote sur le report de l'âge, mesure adoptée le 16 mars grâce au recours par la première ministre Elisabeth Borne de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, comme de très nombreux internautes ont pu le suivre sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Cette façon partisane de manier l'article 40 ouvre une grave jurisprudence qui met en danger à l'avenir l'initiative parlementaire permise par les propositions de loi et les niches parlementaires, a déploré M. Coquerel dans un communiqué publié mercredi matin. Je comprends pas la motion de censure, le gouvernement n'a rien à faire là-dedans pour le coup. Alors c'est pas faux ce que tu dis, c'est intéressant, tu as bien raison de faire remarquer que la question autour de l'article 40 c'est une question interne à l'Assemblée nationale. Techniquement, la question de la proposition de loi de Liot, de la recevabilité des amendements de réintroduction de l'article 40, etc., ça ne regarde pas directement le gouvernement, tu as raison. C'est interne à l'Assemblée nationale, ça regarde pas le Sénat, ça regarde pas le gouvernement, etc. Ceci étant, les députés qui déposent une motion de censure estiment que la décision de Yael Braun-Pivet est une décision qui a été prise sous la contrainte de l'exécutif. C'est d'ailleurs ce qu'explique aussi Charles de Courson, qui dit que Yael Braun-Pivet manque d'indépendance, qu'elle a agi sous la contrainte de l'exécutif, au mépris de la séparation des pouvoirs. Donc les députés, dans cette logique-là, n'ont pas complètement tort de déposer une motion de censure. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi elle gère ça quand c'est la Cour des comptes qui a donné son aval ? Non, la Cour des comptes n'intervient pas sur l'article 40, sur les propositions de loi. Quelle est la limite entre les faits et les estimations ? Ah non, il n'y a pas de limite en la manière, c'est-à-dire que les députés qui vont voter une motion de censure estiment que c'est le meilleur véhicule possible pour censurer ce qui a été fait par Yael Braun-Pivet. Ils font un paquet complet en disant Yael Braun-Pivet et le gouvernement, c'est la même chose. Ils n'ont pas complètement tort, puisque c'est la majorité, c'est Renaissance. Mais des députés macronistes pourront estimer que, d'ailleurs on le verra peut-être au moment où la motion de censure sera examinée, il y aura peut-être des députés chez les Républicains par exemple qui diront bah, je suis désolé mais la motion de censure ça n'a rien à voir avec l'article 40, le gouvernement n'a rien à voir avec l'article 40, c'est des questions internes à l'Assemblée, etc. Bon. Ils ont ni raison ni tort, hein. Qu'est-ce que je voulais dire ? Animés par leur volonté de contrer à tout prix cette proposition de loi pour éviter un débat éprouvant et surtout un vote potentiellement défavorable dans l'hémicycle, les députés de la coalition présidentielle avaient été les premiers à pousser Mme Braun-Pivet afin qu'elle déclare le texte irrecevable. Mais cette dernière s'est d'abord réfugiée derrière la décision du bureau de l'Assemblée, plus haute instance collégiale de l'institution, qui avait jugé le texte formellement recevable le 24 avril. À plusieurs reprises, la présidente de l'Assemblée nationale a été enjointe par une partie des élus Renaissance de convoquer un nouveau bureau, où le camp présidentiel est majoritaire, afin de déclarer irrecevable l'ensemble de la proposition de loi, quitte à créer un précédent et fragiliser le quatrième personnage de l'État dans l'exercice de ses fonctions. Selon Jean-Jacques Urvoas, professeur de droit public à l'université de Brest et ancien garde des Sceaux, et ancien grand député aussi Jean-Jacques Urvoas, hein, je crois même qu'il a présidé la commission des lois Urvoas, non ? J'ai un doute là-dessus, je suis pas sûr. C'est un moment de vérité pour elle. Vous ne pouvez pas présider l'Assemblée nationale et trébucher au trébuchet des textes. Il faut savoir accompagner les débats et être un pacificateur, ajoute-t-il. Ouais. En coulisses, de fortes divergences ont éclaté entre Mme Berger et Mme Braun-Pivet ces dernières semaines. Ça, c'est vrai, on l'avait vu ensemble. Pendant que la présidente du groupe Renaissance, soutenue par l'exécutif, refusait que ses troupes se retrouvent enlisées dans un débat usant et abusant de manœuvres dilatoires pour éviter un scrutin, la présidente de l'Assemblée, dans une posture plus attentiste, ne voulait pas porter seule la responsabilité d'un débat tronqué sur un texte de l'opposition, que ce soit en commission ou en séance publique. Yael Braun-Pivet appartient au groupe Renaissance, elle doit prendre ses responsabilités aussi pour la majorité qui l'a élue, dit la députée des Yvelines, Nadia Hay. c'est intéressant parce que c'est un peu ce que je vous disais. Yael Braun-Pivet, elle est effectivement prise entre deux feux. C'est-à-dire que elle est à la fois une députée Renaissance qui a été élue par, enfin, une députée Renaissance qui a été élue présidente de l'Assemblée nationale par les députés Renaissance, et en même temps, elle est présidente de l'Assemblée nationale, donc elle est là aussi pour être la garante du bon fonctionnement de l'institution. Moi, ce que je vous disais, c'est que moi, je trouve ça un petit peu dégueulasse que ce soit Yael Braun-Pivet d'assumer politiquement sur sa personne l'incapacité du gouvernement à trouver une majorité sur sa proposition de loi. C'est qu'en fait, Yael Braun-Pivet, elle est une victime consentante, mais indirecte, de la minorité d'Elisabeth Borne. Genre, c'est parce qu'Elisabeth Borne n'a pas été foutue de trouver une majorité sur son texte que Yael Braun-Pivet, en fin de course, se retrouve à devoir prendre cette décision pour tenir les meubles, quoi. On appelle ça une complice. Oui, non, mais c'est ça, victime consentante, complice... Elle défend pas l'institution. Bah, c'est ça le paradoxe, c'est qu'en fait, elle l'a défendue jusqu'à présent. C'est qu'Yael Braun-Pivet, elle est en mode... au début, elle s'est cachée derrière la décision du bureau, en disant c'est au bureau de prendre la décision, le bureau a pris une décision, je vais pas reconvoquer un deuxième bureau. D'ailleurs, elle s'est engueulée avec Aurore Berger sur ce point-là. Ensuite, elle a dit à Éric Coquerel, c'est à vous de prendre la décision, parce que c'est effectivement lui le président de la commission des finances. Elle avait raison de dire ça. Éric Coquerel a pris ses responsabilités, renvoyant la balle à Yael Braun-Pivet, qui se retrouve en bout de course à être la dernière à prendre la décision que personne n'a voulu prendre. Et du coup, c'est tout ça pour dire que c'est elle qui porte sur elle la charge de l'ensemble du truc, quoi. Et je dis pas qu'elle le porte, oh là là, la pauvre, elle est victime. Non, je dis qu'elle est victime consentante, pour pas dire victime complice, parce que c'est bien elle qui prend la décision. Elle pouvait ne pas la prendre. Elle a décidé de la prendre. À un moment, elle a accepté le job. Elle a plus qu'accepté le job. Elle a accepté de juger irrecevable au mépris de l'usage. Donc elle se retrouve bel et bien à être une des pièces du rouage qui empêche qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale. Ce qui est très ironique quand tu présides l'institution. Je dirais que la commission des affaires sociales a ses responsabilités aussi. Bah, la commission des affaires sociales, il y a une majorité. Là, pour le coup, la commission des affaires sociales a rejeté l'article 1er. La présidente de la commission des affaires sociales a elle aussi une responsabilité parce qu'elle a empêché le dépôt de sous-amendements au mépris, là aussi, des règles et de l'usage. Ça t'inquiète pas, toi ? Non, en fait, moi, je fais la part des choses sur ce qui relève, encore une fois, comme je vous l'expliquais déjà, on est dans un mode de fonctionnement inhabituel de nos institutions. La Ve République n'a jamais été pensée autour d'une absence de majorité à l'Assemblée nationale. Au contraire même, la Ve République, elle a été pensée autour de l'idée qu'on a besoin d'avoir une majorité forte, quelle que soit la majorité, de gauche, de droite, de diagonale, peu importe. Mais le mode de fonctionnement des institutions a été pensé autour d'une majorité forte. On se retrouve donc dans un mode de fonctionnement buggé de la Ve République, puisqu'il n'y a pas de majorité forte à l'Assemblée nationale. Donc, à bien des égards, on apprend en marchant. Merci pour les 5 subs. Merci Recfo.
Je suis à l'aise financièrement. Je ne plains pas. Mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup, merci, merci, merci. Donc, j'étais en train de vous dire, à bien des égards, l'Assemblée nationale est en train de réécrire des règles et de revoir des usages à l'aune de ce mode de fonctionnement chelou de l'institution. Par ailleurs, je vous ai toujours dit que les institutions et leur fonctionnement, c'est autant un texte qu'une pratique. Il y a une pratique du pouvoir par le gouvernement, par Emmanuel Macron, il y a une pratique du pouvoir par la majorité En Marche, il y a une pratique de l'opposition par les oppositions. Et vous le savez, on l'a déjà analysé 1000 fois, mais toutes les oppositions n'ont pas la même pratique. Le Rassemblement National, en phase de déstabilisation, fait la stratégie de la cravate, plutôt poli, bien élevé, dépose pas trop d'amendements, ils font pas de vagues à l'Assemblée. les oppositions PSELV sont dans une pratique plus habituelle de l'opposition parlementaire qui joue le jeu du débat et des amendements. L'opposition de la France insoumise, pour une partie du groupe, est davantage dans une opposition jusqu'au boutiste, via y compris de l'obstruction parlementaire. Les oppositions ont des pratiques. Et tout ça crée des fonctionnements auxquels tu dois t'adapter. Donc, ce que je veux dire, c'est que il ne m'étonne pas que dans un mode de fonctionnement bizarre de l'Assemblée nationale, des règles soient amenées à être rediscutées. En revanche, je suis comme vous, beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression, dans le chat, moi, j'ai toujours été un parlementariste, un démocrate et un parlementariste. Je m'inquiète effectivement d'un nouvel usage du pouvoir au sein de l'Assemblée nationale qui réduise les champs d'initiative des oppositions. Voilà. Mais ça, c'est une opinion politique. C'est mon opinion. Et on peut ne pas la partager, il n'y a aucun problème avec ça. C'est quoi l'usage de l'article 40 pour censurer des propositions de loi ? Bah justement, l'usage, c'est écrit nulle part, mais l'usage, habituellement, donc la tradition, si tu veux, la jurisprudence, appelle ça comme tu veux, c'est de ne pas utiliser l'article 40 pour empêcher les propositions de loi, parce que sinon, on pourrait empêcher toutes les propositions de loi. Sauf que ça, c'est écrit nulle part. Quand Yael Braun-Pivet dit « la Constitution dit cette proposition de loi est inconstitutionnelle », elle n'a pas tort. Ce que lui rétorquent les gens, c'est « ouais, mais d'habitude, on a décidé que justement, on n'appliquait pas cet article de la Constitution ». C'est quoi exactement l'article 40 ? C'est un article qui interdit aux députés de proposer des amendements ou des lois qui créent une charge supplémentaire pour le budget de l'État sans proposer une compensation suffisante. Est-ce que tu penses que l'opposition va l'utiliser à tout va maintenant ? Ce qui est certain, c'est que si l'opposition commence à l'utiliser pour empêcher les propositions de loi de la majorité l'utilisera aussi pour empêcher toutes les propositions de loi des oppositions. Donc il y a un vrai problème de consensus, hein. Et pourquoi ils proposent pas une compensation ? Alors ils en proposent une, ça, on appelle ça gager sur le tabac. C'est un peu une stratégie de con, mais c'est pas très grave. C'est assez habituel, il y a des techniques de contournement autour de l'augmentation des taxes sur le tabac, qui est un peu un truc classique. C'est le mode par défaut utilisé par les députés. Mais qui empêche pas d'avoir un contrôle article 40. Hein. C'est pas parce que tu gages sur le tabac que tu vas pas te faire appliquer l'article 40. Les députés sont très habitués sur leurs amendements, sur les propositions de loi. Par contre, c'est la première fois. Bon, je continue l'article. Pour mettre fin à ces tiraillements internes, le camp présidentiel a finalement opté pour un débat en commission visant à torpiller la proposition de loi. Les 32 élus Renaissance, Modem et Horizon, ont cette fois-ci pu compter sur 6 élus LR sur 8 pour supprimer l'article 1er sur la mesure d'âge contraignant Liotte et ses soutiens à le réintroduire par le biais de nouveaux amendements déposés en vue de la séance publique. Or, le succès de cette tactique parlementaire risque d'entacher durablement la relation entre Mme Braun-Pivet et les oppositions, notamment celle de la NUPES, qui lui reproche depuis l'examen de la réforme des retraites une trop grande passivité face au choix du gouvernement de multiplier les procédures constitutionnelles pour corseter les débats. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, je comprends les députés NUPES qui en veulent à Yael Braun-Pivet, en disant non seulement l'institution se fait marcher sur la gueule par le gouvernement et Yael Braun-Pivet ne fait rien, mais bon, à la limite, on pouvait lui accepter le fait qu'elle ne pouvait pas y faire grand-chose. Le gouvernement peut décider d'utiliser l'article 49.3. Ça, Yael Braun-Pivet, elle ne peut pas dire non. C'est comme ça, l'article 49.3, bon, article 49.3. Sauf que là, les députés NUPES, ils reprochent à Yael Braun-Pivet d'être devenue elle-même une utilisatrice de ces articles de la Constitution qui empêchent le débat. Ça, c'est sûr. Il y a un degré d'ingérence de l'exécutif dans le fonctionnement de cette Assemblée qui est extrêmement élevé et dommageable, avance la présidente du groupe socialiste, Cyrielle Châtelain. Écologiste, non, je me disais bien. En le lisant, j'ai compris qu'il y avait un problème. Cyrielle Châtelain, c'est la présidente du groupe écologiste. Nous ne sommes plus un Parlement rationalisé, mais un Parlement empêché. Alors, Parlement rationalisé, c'est une expression importante qui désigne le mode de fonctionnement de la Ve République. La 5ème République, c'est la rationalisation du parlementarisme. Vous gardez ça en tête, vous l'écrivez dans toutes vos copies de droit, c'est exactement la philosophie de De Gaulle et Debré quand ils ont créé la 5ème République, c'était la rationalisation du parlementarisme. Sous-entendu, la 4ème République, c'était un parlementarisme non rationalisé, qui du coup était irrationnel et c'était le bordel. Du coup, la 5ème République a été pensée autour de la rationalisation du parlementarisme. C'est pour ça qu'on a écrit dans la Constitution les articles 44.1, 49.3, article 40, etc. C'est la rationalisation du parlementarisme. De la 5ème République. Sauf que là, ce que dit Cyril Châtelain, c'est qu'on n'est même plus dans la rationalisation du parlementarisme, on est même carrément dans l'empêchement du Parlement. On est un Parlement empêché. Les sanctions délivrées pour cause de chahut dans l'hémicycle durant l'examen de la réforme des retraites ont creusé la défiance des insoumis en particulier envers la tenante du Palais Bourbon. Oui, alors après, bon. Est-ce que c'est la sanction le problème ou est-ce que c'est la faute? Ah! Ah, il y a débat. Ah, il y a des oui, il y a débat. Hop. Au début de la mandature, il disait partout que j'étais une formidable présidente de l'Assemblée, très impartiale. Maintenant que je commence à être plus sévère, je suis devenue la chef de bande, confiait récemment Madame Bonne-Pivet. Oui, bah oui. Tiraillé entre une majorité relative qui lui reproche sa trop grande neutralité au profit de ses adversaires politiques et les opposants qui l'encouragent à défendre les prérogatives du Parlement au nom du parlementarisme, du pluralisme, la présidente de l'Assemblée nationale avait tenté jusqu'ici de tenir un équilibre fragile. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'Albon de Pivet, elle se faisait engueuler en interne dans son groupe par Aurore Berger, qui lui reprochait d'être trop impartiale. Et maintenant, elle se fait engueuler par les opposants qui lui reprochent de ne pas être assez impartiale. Putain, l'enclume et le marteau, quoi. Première femme élue au perchoir en juin 2022, malgré son absence de proximité avec Emmanuel Macron. Ça, c'est joliment dit, hein, parce que Emmanuel Macron était contre l'élection d'Yael Braun-Pivet au perchoir. Hein. Madame Braun-Pivet s'est placée, dès le début de la législature, en garante de l'institution, à même de faire vivre le travail transpartisan dans l'espoir de mettre un terme aux querelles stériles. Depuis, l'élu des Yvelines s'est retrouvé à maintes reprises en porte-à-faux avec son propre camp, qui remet régulièrement en doute sa loyauté. Non, mais c'est vrai, hein. Faut pas retirer ça du paradigme Yael Braun-Pivet. Hein. Avant de se faire emmerder par la NUPES, elle se faisait emmerder par la majorité qui lui en voulait. En octobre 2022, elle a créé la surprise en s'élevant publiquement contre l'idée de l'exécutif de réformer le régime de retraite par le biais d'un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je m'en souviens, vous vous en souvenez? Abonnez-vous à la chaîne. À l'époque, rappelez-vous, on avait lu des articles où Yael Braun-Pivet déclarait avant la réforme des retraites qu'il était hors de question que la réforme des retraites passe par un amendement au PLFSS. À l'époque, je me souviens, le streamer Jean Massier, il disait « Waouh, bah dis donc, Yael Braun-Pivet, c'est ballsy hein, de s'en prendre au gouvernement comme ça, dans le journal Le Monde et tout, waouh, 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 impressionnant, etc. » Remember. Bon, bah aujourd'hui, il a changé de discours, le Jean Massier. Hein. Elle avait rappelé que cette assemblée en majorité relative nécessitait plus de concertation en amont des textes pour réussir à construire des compromis. Non mais c'est pour ça! C'est pour ça, je vous dis, c'est ouf, Yael Braun-Pivet. Elle est en train de payer le prix de l'incapacité du gouvernement à faire du dialogue et du compromis, quoi. Incapacité du gouvernement, bien appuyée par l'absence de volonté d'un certain nombre d'opposants, je vous l'accorde. Dans l'hémicycle, les débats animés mettent aussi à l'épreuve son impartialité. En octobre 2022, elle avait notamment rappelé à l'ordre la députée Renaissance de Paris, Astrid Panosian-Bouvet, qui avait dénoncé l'ADN xénophobe vieux de 50 ans du RN. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Yael Braun-Pivet, elle avait rappelé à l'ordre une députée qui avait dit « Le RN, ils sont racistes ». Et Yael Braun-Pivet, elle avait dit « Ah non, hein, faut pas insulter ». Et du coup, tout le monde avait dit « What ? Mais depuis quand c'est une insulte de dire que le RN, ils sont racistes ?» C'est comme Philippe Pétain. C'est comme quand Elisabeth Borne rappelle les racines pétainistes du Rassemblement National et que Macron il dit « Dis donc, c'est important, il faut rassembler tout le monde. Hein. » Bon. Bon. une prise de position perçue dans la majorité relative comme trop conciliante avec le parti d'extrême droite. Ah bah, puis à gauche, oui. Dans la majorité relative, puis à gauche. Hein. Ça avait gueulé à l'époque. Hein. Je me souviens, à tous les députés de gauche, quand ils prenaient la parole, ils rappelaient la xénophobie du RN en permanence. Elle prenait ses distances avec la politique politicienne. Elle arrivait à dire que Sébastien Chenu était un bon vice-président de l'Assemblée, insiste le député RN du Loiret, Thomas Ménager. Mais sur la proposition de loi Liotte, elle n'est pas là pour la démocratie, mais pour sauver son camp. Ah, même le RN trouvait que c'était une bonne présidente. En même temps, j'aimerais pas être à sa place. Hein. Présider une assemblée où il n'y a pas de majorité, où le RN a 89 députés, bon courage. Hein. Oh là là. Oh là là. D'autres reproches ont fusé. En décembre 2022, après que Mme Braun-Pivet a critiqué dans un entretien à La Voix du Nord les manœuvres d'obstruction utilisées par la majorité relative durant les niches parlementaires de la France Insoumise et de LR. Oui, c'est vrai, je me souviens. Je considère qu'il faut débattre sur le fond et qu'il ne faut pas utiliser des techniques procédurales d'obstruction pour éviter finalement le débat, avait-elle estimé. Ah, quelle ironie! Quelle ironie, mes amis! Des propos aussitôt dénoncés dans le camp présidentiel où on évoquait le problème Braun-Pivet, illustrant son manque de relais au sein du groupe Renaissance. Putain la vache. C'est vraiment, il y a un côté Braun-Pivet, quoi qu'elle fasse, elle s'en prend plein la gueule, quoi. C'est... Uch. Après sa décision annoncée mercredi, la députée des Yvelines prend le risque de voir sa présidence et la collégialité de certaines instances mises à mal par les oppositions. On n'est jamais fragilisé quand on applique la Constitution, veut croire le président Renaissance de la Commission des Affaires Économiques, Guillaume Kasbarian. Guillaume, je me permets de faire remarquer qu'il y a un certain nombre d'articles de la Constitution qui peuvent quand même fragiliser celui qui en fait usage. Moi, je dis ça. Son groupe de travail transpartisan sur la réforme des institutions, réuni chaque mercredi, pourrait être la première victime collatérale. Les dirigeants de la NUPES ont fait savoir qu'ils boycotteraient les réunions dont la prochaine est prévue le 14 juin. Maintenant, c'est fini, s'insurge Madame Châtelain. On ne va pas discuter avec elle de l'équilibre des pouvoirs alors que la pratique ne suit pas. Bon, bah ça... Non. Bon, bah du coup, ça boude du côté des oppositions qui ne veulent plus participer aux discussions avec Yael Braun-Pivet sur la réforme des institutions. On peut inviter Yael Braun-Pivet sur Backseat pour qu'elle nous explique tout ça. Ah bah tu doutes bien que j'ai eu envie. Tu doutes bien que je suis le premier à vouloir inviter Yael Braun-Pivet sur le plateau de Backseat. Donc on y arrivera un jour. Mais là en ce moment, elle veut pas trop parler à la presse. Enfin elle choisit BFM TV. Quel genre de pression a-t-elle pu recevoir en interne, penses-tu ? Non, mais j'en sais rien, il n'y a pas besoin de faire des pressions, c'est pas des menaces physiques. Hein. C'est de la politique, donc... Borne à payer le petit déj, ça suffit. Oui. Non, mais enfin, c'est l'exercice du pouvoir, y compris au sein de la majorité, c'est ce que vous rappelle l'article, c'est aussi fait de tension. Yael Braun-Pivet, elle s'engueule régulièrement avec Aurore Berger, alors qu'elles sont dans le même camp. Elle s'engueule avec Elisabeth Borne. En même temps, Elisabeth Borne, elle mérite une gueulante de la part de Braun-Pivet, hein. Parce que putain, si tu l'avais mieux fait de ta loi, on n'en serait pas là. Yael Braun-Pivet et Emmanuel Macron se détestent cordialement, ça on le sait. Ben voilà. Quel merdier. Mais ouais. Pourquoi ils se détestent? Parce que Yael Braun-Pivet a été candidate à la présidence de l'Assemblée nationale, alors qu'Emmanuel Macron aurait préféré choisir lui-même qui préside l'Assemblée nationale. Sauf que Emmanuel Macron s'est retrouvé à court de candidats, puisque, à la surprise générale, Richard Ferrand a été éliminé de l'élection législative dans sa circonscription. Donc Macron, il s'est retrouvé sans poulain pour présider l'Assemblée nationale. Du coup, à la surprise générale, il a fallu choisir un nouveau président de l'Assemblée nationale. Et sans attendre la validation de Macron, Yael Braun-Pivet, elle a déclaré sa candidature. Yael Braun-Pivet, jusque-là, elle était présidente de la commission des lois. Elle a obtenu le soutien d'une majorité de députés de la majorité. Elle a été élue, mais Macron n'était pas content. Voilà. Est-ce qu'elle est aimée par quelqu'un de la majorité? Ça dépend quel jour. C'est-à-dire que ce que la lecture de cet article du Monde nous fait bien comprendre, c'est qu'en fonction du jour, il y a le bon pivet et il y a toujours des gens qui ont d'excellentes raisons de la détester. Est-ce que le président s'implique sur ce genre de démarche parlementaire ou juste le gouvernement? Bah, en principe, ni l'un ni l'autre, mais bon, on sait très bien que dans un jeu. Je vais le dire autrement. Si Jean-Luc Mélenchon devenait président de la République, ne me faites pas croire qu'il ne s'intéresserait pas de près à l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. C'est. Voilà, c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est habituel. L'exécutif ne peut pas dégager le président de l'Assemblée. S'ils veulent dégager, il faut dissoudre. Alors, si les députés de la majorité veulent changer de président de l'Assemblée nationale, il faut qu'ils présentent un nouveau candidat. Et il faut qu'ils réussissent à le faire élire. Je ne sais pas quelle est la procédure pour changer de président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut que je regarde. Permettez? Président informe l'Assemblée dès qu'il a connaissance des vacances survenues, le nom de député proclamé, machin, bureau de l'Assemblée, le président. Au cours de la première séance de la législature et aussitôt après les communications prévues aux articles 2 et 3, le doyen d'âge invite l'Assemblée nationale à procéder à l'élection du président, à suivre en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier, oui, ça on s'en souvient. Le président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin secret à la tribune. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, un troisième tour, la majorité relative suffit. Et en cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est élu. Ouais, ça c'est ok. Donc y a, bon, une majorité relative peut élire un président. Des scrutateurs tirés au sort, machin, doyen d'âge. Les autres membres du bureau sont élus au début de chaque législature, machin. Oui. Présidence de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée nationale convoque, préside les réunions. Hein, chargé de veiller à la sûreté intérieure des. Hein. Communication. Questeur, dépenses de l'Assemblée, le bureau détermine. Et ensuite, c'est les groupes. Bah, je ne sais pas comment on change de président. Mise en responsabilité gouvernementale, haute cour de justice, contrôle parlementaire, procédure spéciale, proposition de loi, proposition de référendum, consultation des électeurs, procédure de dissolution, de discussion des lois organiques, traité accords internationaux, déclaration de guerre, commission d'enquête, l'information, contrôle budgétaire, affaires européennes, pétition. Bon, on s'en branle. Révision de la Constitution. Ça, c'est les révisions constitutionnelles. Procédure législative ordinaire. Discipline, immunité et déontologie, page 49. Procédure disciplinaire. Les fraudes, les députés qui se battent, les faits délictueux. Je sais pas, je trouve pas. Est-ce qu'il est possible pour les députés de faire grève? Bah non, ça n'a pas de sens puisque les députés n'ont pas de travail. La grève, ça n'a de sens que dans un rapport de travail, avec un contrat de travail. Les députés n'ont pas de travail, ils ont un mandat. C'est pas la même chose. Comment ça se fait que le LREM et leurs alliés sont majoritaires en commission et pas dans l'hémicycle? La composition de la commission n'est pas proportionnelle à l'hémicycle. Si, mais là, ils ont pu compter justement sur l'appui des députés LR. Donc avec les 8 députés LR de la commission, ils étaient majoritaires à la commission. Bref, à suivre demain à partir de 9h sur la chaîne Twitch de Jean Massier, les débats en séance publique sur la proposition de loi Liotte d'abrogation de la réforme des retraites, l'irrecevabilité financière, vous allez entendre des députés qui gueulent très très fort, vous allez voir Yael Braun-Pivet qui défend sa décision, vous allez voir Aurore Berger qui soutient Yael Braun-Pivet, et c'était pas gagné. 9h demain, ouais 9h demain, 9h du matin. Eh, vous mettez un réveil, hein, je veux pas le savoir, vous mettez un réveil. Attends, je vais le tweeter ça. Parce que je sens qu'il y en a parmi vous qui vont pas mettre de réveil. Important, deux points. Demain, jeudi, mettez un réveil à 8h30. Non, mettez un réveil. Bon, vous le mettez à l'heure où vous voulez. Pour suivre en direct la proposition de loi Liotte d'abrogation Attends, je vais l'écrire mieux parce que là c'est trop long et trop chiant. Suivre en direct les débats dans l'hémicycle sur la loi d'abrogation de la réforme des retraites. Voilà. Ce sera sur quelle chaîne? Non, ce sera sur ma chaîne, sur Twitch. Bref, donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Bon, pendant ce temps-là, à gauche... C'est le bordel. Pendant ce temps-là, à gauche, c'est le bordel. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais. Alors, regardez, il y a l'interview. Il y a l'interview de Jean-Luc dans 20 minutes. Putain, mais elle dure une plombe, l'interview. Ah, attends, elle est trop longue. Toutoum, toutoum, toutoum. Bon, on va choisir les questions qui nous intéressent. Réforme des retraites, nous sommes en train de sortir du cadre démocratique, estime Jean-Luc Mélenchon. Bon, je pense qu'on va passer un peu vite sur les questions sur la réforme des retraites parce qu'on en a déjà parlé et qu'on connaît l'opinion de Jean-Luc Mélenchon sur le sujet. Article 40, vous avez tweeté la Macronie, est-ce encore la démocratie, tout ça, machin. Que reprochez-vous à Emmanuel Macron, Marine Le Pen? Quoi, ça va la manifestation de mardi, blablabla. Conflictualisation, Elisabeth Borne, part de responsabilité dans la montée des violences, blablabla. Le RN est tenu à l'écart, certaines personnes et pièces sont... Alors, voilà, on rentre dans le dur. Ton mail en haut à droite. Oui, mais ça, vous le connaissez déjà, mon mail. Fou. Mais non, mais ça, vous le connaissez, mon mail. Par contre, m'écrivez pas sur ce mail-là. Hein. Écrivez-moi sur pro@jeanmassier.fr, uniquement pour les demandes professionnelles. Alors... Certains partenaires de la NUPES ne sont pas favorables à une liste unique aux européennes en 2024. Ça fait référence aux écolos, évidemment. L'absence d'accord, est-ce que c'est la fin de la NUPES? Demande 20 minutes à Jean-Luc Mélenchon, père fondateur de la gauche, non je déconne, de la NUPES. C'est possible, Répond Jean-Luc Mélenchon. Pour la première fois, Jean-Luc Mélenchon parle d'une éventualité de la fin de la NUPES. La NUPES est en péril si elle n'est même plus un accord électoral. S'il n'y a pas d'union aux européennes, il n'y en aura pas non plus aux municipales. Pourquoi y en aurait-il une à la présidentielle ? Alors, Jean-Luc Mélenchon va un peu vite en besogne, mais pourquoi pas ? Il estime que s'il n'y a pas d'union aux européennes, il ne peut pas y en avoir aux municipales. Moi, j'ai envie de dire deux choses. D'une part, ah bon ? Et d'autre part, est-ce que les insoumis ils vont vraiment soutenir des listes d'union aux municipales dans des municipalités dans lesquelles ils sont en opposition depuis des années à un socialiste au pouvoir? Je suis pas sûr que les insoumis meurent d'envie de faire campagne. En mode NUPES dans toutes les villes. C'est là aussi qu'il y a des réalités locales qui peuvent expliquer le fait que, bon, voilà, il y a des endroits où LFI peuvent être copains avec des socialistes, il y a d'autres endroits où c'est juste mort. Voilà. Du coup, tu préfères que la NUPES canne ? Ah, moi j'en ai rien à branler, hein, j'ai pas de préférence là-dessus. Il n'y en a pas non plus au municipal. Pourquoi y en aurait-il une à la présidentielle? C'est une question rhétorique que pose Jean-Luc Mélenchon. Mais on verra. Non, mais on verra. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'union aux européennes en 2024 empêche qu'il y ait un candidat unique en 2027? Moi, je suis pas sûr, hein. Non, enfin, c'est des logiques assez différentes. En plus, la présidentielle, c'est très spécifique. Les petits intérêts des partis ont des limites. Les petits intérêts des partis ont des limites. Nous avons la possibilité d'être en tête. Que tout le peuple, quand il dit nous avons, c'est la NUPES, hein. Nous avons la possibilité d'être en tête, que tout le peuple voit qu'il y a une direction possible pour son futur. Nous avons même proposé de donner la tête de liste aux écologistes. La réponse a été brutale et violente. Madame Tondelier nous traite de forceurs. Imaginez qu'on réplique sur ce ton. Ah oui, on imagine assez bien. Mais indépendamment de ça, Marine Tondelier, elle a parlé de forceurs en septembre dernier. À l'époque, la tête de liste n'était pas encore proposée aux écolos. Elle a été proposée plus tard. Bah là, d'ailleurs, assez récemment, hein, en mars. Je suis pas sûr qu'elle ait répondu forceur. Bon, peu importe. Effectivement, ceci étant, Jean-Luc Mélenchon a raison. La réponse de Marine Tondelier à la proposition de liste unique a été brutale et violente. Oh, brutale et violente. Non mais, disons que venant d'un insoumis, c'est voilà, quand même. Non mais quand même. Ils ont peu apprécié. Froide, on va dire froide. Cinglante, voilà, cinglante. Oui, nous sommes différents sur l'Europe. Bon, bah oui. Oui, c'est vrai. Oui, Europe Écologie Les Verts et les Insoumis sont différents sur l'Europe. Ça, c'est vrai, ils n'ont pas la même idée. Ils voient pas les choses de la même manière. C'est pas pareil, effectivement. Mais nous avons un programme partagé sur le sujet signé aux législatives de 2022. Non. Ils avaient un accord sur ce que devait faire un éventuel gouvernement français. Pas sur la direction globale de l'Union européenne. Pourquoi ne pas avoir un programme d'action ensemble sur le mandat à venir? Ça, il a raison. Non, mais il a raison. On pourrait très bien avoir un mandat commun d'action. Même s'ils sont différents sur l'Europe, est-ce qu'ils peuvent se mettre d'accord? En fait, la question que pose Jean-Luc Mélenchon, et la réponse qu'il apporte, c'est: est-ce que nos différences sont indépassables? Et la réponse est non. Et je pense qu'il a relativement raison. Oui, on peut se mettre d'accord. Ça a demandé un gros travail, quand même. Parce qu'entre les fédéralistes européens et certains souverainistes LFI, Compliqué de se mettre d'accord quand même, hein. On vote déjà de même dans 90% des cas. Alors, il fait référence au vote au Parlement européen, mais alors il faut faire très attention à ces mesures-là de pourcentage de vote en commun, etc. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens au Parlement européen, puisque justement, comme il y a un travail de coalition qui est fait, les votes sont pas tant sur la proposition de la Commission ou sur, que sur le compromis qui a été trouvé. C'est très très différent en fait. Voter un texte au Parlement européen, ça ne veut pas dire soutenir l'ensemble des autres groupes qui ont voté le même texte. C'est pour ça que vous avez très souvent des textes qui sont votés à droite comme à gauche au Parlement européen, parce qu'ils ont réussi à tomber d'accord sur un compromis. Et la culture de compromis au Parlement européen est bien plus importante que la culture de compromis en France. Tu m'étonnes avec ce qu'on vient de vivre. Pardon. Donc bref, attention à ces représentations-là, c'est un peu voilà. Pourquoi créer artificiellement une division insurmontable? Qui peut vouloir rater l'occasion d'arriver en tête et d'envoyer un signal enthousiasmant à toute l'Europe? Ça, c'est un très bon argument de Jean-Luc Mélenchon, effectivement. Les diviseurs seront sanctionnés dans les urnes. Ça, c'est une. C'est une. Merde. Comment on dit? Un présage. Je sais pas, tiens. Une spéculation. Oui, non, un présage même. C'est une vraie question, ça. Est-ce que vous pensez que si les groupes de, les partis de la NUPES se présentent séparés aux européennes, les électeurs vont voter LFI? Est-ce que c'est ELV qui va être sanctionné? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr qu'Europe Écologie Les Verts soient ceux qui perdent le plus de plumes en ce moment, avec l'affaire Quatennens. Moi, je pense que c'est les socialistes qui vont rafler la mise. Non mais imagine, attends, imagine. T'es un électeur insoumis. Imagine. Ça fait 10 ans que tu jures la vie de ta mère que plus jamais tu revoteras socialiste. Que jamais tu feras d'accord avec les socialistes. Il se trouve qu'en 2022, il y a eu la NUPES qui est née, c'est un accord avec les socialistes. Bon. Mais tu t'y es fait. Tu t'y es fait parce que, bon, le contexte, machin. Admettons. Bon, t'avais dit que tu le ferais jamais, mais tu l'as fait. Preuve que t'es pas sectaire. Ensuite, t'arrives en mars 2023, et là, tu te rends compte que toi qui as juré pendant 10 ans que jamais tu ferais d'accord avec les socialistes et que tu souhaitais la mort du Parti socialiste, tu te retrouves en réalité à supplier les socialistes de bien vouloir faire un accord avec toi. Encore une fois, admettons. Mais les socialistes refusent. Mais juste imagine, imagine. Sauf que, entre-temps, tu t'es aussi fâché avec LFI un peu. Pour deux raisons. D'une part, pour le manque de démocratie interne à LFI, où tu dis ça commence à bien faire là quand même. Autant de 2008 à 2022, ça allait parce que bon, on avait Jean-Luc, c'était notre candidat, c'était génial, machine à gagner la présidentielle et tout. Autant là, le manque de démocratie au sein du parti, ça commence à faire chier. Tu rajoutes à ça. L'histoire d'Adrien Quatennens, qui t'a un peu mis mal, ou vraiment là, l'automne dernier, t'étais pas bien, tu te retrouves à dire, ok, j'ai pas envie de voter LFI aux européennes, ils m'ont saoulé. Du coup, je vais voter pour qui? T'as pas envie de voter pour ELV parce que c'est des fédéralistes européens. T'as pas envie de voter pour le PCF parce que Fabien Roussel. Il te reste plus que les socialistes. C'est chiant, hein? NPA. Le NPA, ils vont se présenter? Oh, sinon, ouais, sinon, tu votes NPA, ouais. Tu votes NPA. Ouais, c'est vrai, il te reste le NPA. Mais bon, le NPA, ils sont anti-NUPES, donc. C'est ça la question. C'est est-ce que tu es plus opposé? Est-ce que tu es plus opposé? Aux socialistes? Non, attends, c'est pas la bonne manière de poser la question. Enfin bref, tu dois faire un choix chiant, quoi. Tu préfères voter socialiste pour sauver la NUPES? NPA, oui, mais lequel? Ah oui, en plus, il y a deux NPA. Oui, c'est vrai, maintenant, il y a deux NPA, c'est le bordel. J'aime les sondages. Ah non, ça va être marrant, hein. Ça va être marrant, hein. Abstention. Ah, attends. Tu peux t'abstenir quand t'es un électeur LFI et que t'as fait campagne pendant 10 ans contre l'abstention? Bah, c'est quand même un délire. Et là, tu vois François Hollande arriver. Et François Hollande devient le recours. Non, je déconne. Non, non, mais... Enfin, je veux dire, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise depuis 10 ans maintenant, c'est d'aller chercher les abstentionnistes. Justement, c'est d'aller chercher les abstentionnistes, c'est de critiquer l'absence de campagne d'inscription sur la liste électorale de la part du gouvernement, etc. C'est quand même chaud de s'abstenir. Bon, tu fais ce que tu veux, hein. Encore une fois, chacun est face à sa conscience. Beaucoup d'électeurs LFI sont d'anciens abstentionnistes. Oui, bien sûr. Oui, mais l'abstention politique, c'est différent. Ah bon, bah ça va alors. Non, mais bon, à partir du moment où tu as accepté un accord avec le PS alors que tu avais juré que tu n'accepterais jamais ça, tu peux accepter beaucoup de choses. Non, non, mais. C'est le PS qui a accepté de faire la NUPES proposition d'LFI. Non, enfin c'est plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, ils ont fait un accord parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Je vous l'ai expliqué ça l'année dernière. Regardez mes vidéos sur YouTube, je vous explique tout ça très bien. Bon, bref, hey, on continue l'interview. Hop. Deux listes, PS, ELV et PCF, LFI. Ça aurait été la logique il y a quelques années, mais maintenant que Fabien Roussel est en train de prendre ses distances de la France insoumise, je vois mal les insoumis accepter de faire une liste commune avec les communistes qui viennent de réélire largement Roussel. Je sais pas. J'en sais rien, je sais pas. Merci Pierre pour ton prime. Bon, on verra. Il y a des logiques partisanes. Ce n'est pas nouveau. Dans le manifeste du Parti communiste, il est écrit, les communistes n'ont pas d'intérêts différents de ceux des travailleurs. Oui. Donc, s'ils n'ont pas d'intérêts différents, allons-y ensemble. Ça ne ferait pas de mal de le rappeler à Fabien Roussel s'il n'a pas lu Marx depuis longtemps qu'il y a dedans d'autres leçons que la défense des barbecues. Alors, non mais. Ça, c'est du. Je sais pas si on peut trouver plus Jean-Luc Mélenchon que cette réponse. C'est pas péjoratif, hein. C'est-à-dire que c'est une prise de distance historique, une citation d'un grand penseur, ça c'est très Jean-Luc Mélenchon, un appel à l'union, allons-y ensemble, suivi d'une tarte dans la gueule à un allié. Soyons amis, espèce d'attardé. Ouais, c'est un peu ça. C'est viens me faire un câlin et je t'en mets une juste avant le câlin. Roussel, un allié. Bah oui, regarde, c'est écrit là. Allons-y ensemble. Non mais c'est... Vous pouvez critiquer Fabien Roussel si vous voulez. Je constate juste que le monsieur sur la photo, là, il veut faire un alliage, une alliance. C'est tout. Bon. Tout conflictualisé. Non, non, mais c'est bon, bah voilà. Au demeurant, au demeurant, c'est de bonne guerre, hein. Jean-Luc Mélenchon qui met une tarte à Fabien Roussel. J'ai envie de dire, pour la quantité de tarte que Fabien Roussel a mis à Jean-Luc Mélenchon, un partout la balle au centre. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus, quand même? Il a le dollar, Jean-Luc, mais enfin, t'es pas là. Il n'est pas responsable de tout. De toutes les tartes qui sont distribuées à la NUPES, il s'en prend pas mal. Il en mérite peut-être, je ne sais pas, ça je vous laisse. Voilà. Mais. Il a le dos large, mais il faut pas charrier. Voilà, c'est ça. Le moment est peut-être mal choisi. Ah, bah ça. Oui. Oui. Bon, vous regrettez pas votre absence à l'Assemblée, non, machin. Vous excluez totalement de candidature en 2027. Personne ne peut dire ça. En toutes circonstances, je joue un rôle qui me demande de m'enterrer moi-même. Je porte une expérience, j'écris, je parle, machin. Bon, ça d'accord. Parmi les anciens, certains, pour l'instant, font les caprices et sont un peu fâchés, mais ça leur passera, ça leur passe toujours. Ça, c'est une réponse qu'il fait à Raquel Garrido, Alexis Corbière. Je sais pas, moi, Clémentine Autain. Allez-vous donner à l'appel au don fait par François Ruffin pour qu'il se prépare en 2027? Pourquoi pas? François est une figure montante de notre famille. Donc Jean-Luc Mélenchon hésite à soutenir François Ruffin dans sa course à l'Élysée. Intéressant. François est prêt, avez-vous dit? Avez-vous tweeté pour être précis? Oui, les sondages le disent. Il est aussi parfois un peu à la distance du programme pourtant signé ensemble. Le moment venu, il faudra rappeler la stratégie. Qui veut-on rassembler? La situation me convient parce que vous ne pouvez plus dire c'est Mélenchon ou rien. Maintenant, il y en a au moins deux. Ça, il a raison, Jean-Luc Mélenchon. Hein. Oui, il a raison, Jean-Luc Mélenchon. De dire, soyez pas étonnés quand j'apporte un soutien à François Ruffin. Au moins, vous pouvez pas dire que Jean-Luc Mélenchon, il n'écoute que lui-même, qu'il n'aime que lui-même, etc. Là, c'est vrai. On peut allonger la liste, un jour ou l'autre, Quatennens reviendra dans la course. Ça aussi, c'est une prophétie, ou une analyse, ou une invocation. Je pense que c'est une invocation. Une supplique? Une supplique. Un vœu. Pieux ou pas, c'est un vœu. Il y a déjà Manuel Bompard, Mathilde Panot, Clémence Guettet. Le mouvement insoumis est riche de personnalités. Alors Clémence Guettet, sur le plateau de Backseat, quand on lui a dit Clémence Guettet 2027, elle a dit surtout pas. Ce serait pas la première à changer d'avis. Je suis certain que ma mise en retrait de l'Assemblée favorise cette émergence. Je continue à écrire l'histoire de la gauche à ma façon. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon. Bon. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Monsieur Melon a encore frappé. Ouais, alors, tu peux reprocher à Jean-Luc Mélenchon d'avoir un gros melon. Tu peux. N'empêche que ça fait deux fois qu'il fait plus de 20% au premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que tu en connais beaucoup d'autres qui y arrivent? Voilà. À gauche, en tout cas. Et ensuite. Non, j'ai dit à gauche, hein. Voilà. Et ensuite, non, on ne peut pas retirer à Jean-Luc Mélenchon qu'il est ou qu'il a été, ça je vous laisse choisir, une des personnalités les plus influentes de la gauche de ces 15 dernières années. C'est vrai. Bon, il n'y a pas besoin d'en faire, pas besoin d'en faire de caisse. Ça veut pas dire que dire ça, ça veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'il dit, avec ce qu'il défend. Etc. Non, mais c'est vrai. Jean-Luc Mélenchon est une personnalité extrêmement importante de la gauche, du paysage politique français des années 2010. Il a apporté une alternative aux dinosaures du PS. Avant de se fossiliser lui-même. Ah oh, ouais. Bon. Non mais. Si pour toi le RN est raciste, pourquoi autant de gens votent pour eux? Vraie question. Bah parce que beaucoup de gens s'arrangent du racisme. Enfin, c'est pas nouveau ça. Pour une découverte, hein. Emmanuel Valls. C'est vrai, on pose jamais la question de Emmanuel Valls. L'hypothèse Valls. Christiane Taubira, le retour. Attendez. Attendez, l'histoire n'est pas encore écrite. Attendez, l'histoire n'est pas encore écrite. On va encore avoir l'occasion de rigoler, je pense, dans les prochaines années. Bon, hey, dernier truc, attendez, non, parce qu'il y a quand même un truc intéressant. Autour de cette question de l'Union aux Européennes. Revenons sur la question de l'Union aux Européennes. Le journal Libération, abonnez-vous. Ah bah non, trop tard, il n'y a plus l'offre, c'est fini. Dommage. Libération a fait un truc que je trouve marrant. Ils ont publié deux billets politiques de deux éditorialistes politiques de Libé qui sont pas d'accord l'un avec l'autre. Libérer l'offre Libé, oh, j'avoue. Regardez, ils ont publié Jonathan Boucher-Peterson qui pense qu'il faut faire une union de la gauche aux européennes et ils ont publié Thomas Legrand qui dit que ce serait une connerie, une duperie et un naufrage assuré. Je vous propose qu'on fasse un vote pré-lecture. Attendez, je le fais. Hop. La gauche doit-elle s'unir aux européennes? Oui, non. Obi-Wan Kenobi, pour ceux qui s'abstiennent. Hop. Pour ceux qui préfèrent critiquer sans se mouiller. Pardon. Vous me dites, est-ce que la gauche, selon vous, que vous soyez de gauche ou pas, c'est pas important. Là, pour le coup, est-ce que vous pensez qu'elle a intérêt à s'allier aux européennes? Je serais bien incapable de savoir. Ah, mais faut faire un choix, là, mon grand. Hein. Ah non, mais hey, oh, la politique, c'est pas. Non, faut faire des. Non, faut prendre des décisions. Hein. On lit pas les éditos avant de se forger un avis? Non, justement, je préfère faire le sondage avant. On en refera peut-être un après pour voir. Ouais, on pourra le refaire après si vous voulez, hein. Ça coûte pas plus cher, hein. Par contre, celui d'après, je le réserve aux abonnés. Du coup, vous êtes obligé de vous abonner à la chaîne si vous pouvez vous, si vous voulez pouvoir voter. Oh, je déconne. Mais abonnez-vous quand même. La gauche doit-elle s'unir aux européennes? Vous votez oui à 62%. Intéressant, intéressant, intéressant. Vous êtes deux tiers à voter oui et un quart à voter non. Ok, intéressant. Intéressant. Hop. Merci Biécu pour ton resub. Bon, on commence par lequel des deux articles? Celui qui est pour ou celui qui est contre? Vous voulez quoi? Vous préférez quoi? La confirmation de vos opinions ou la lecture par curiosité d'une opinion contraire? Ah, contre. Ah, ok. Ah, ok. Bah, on va lire la contre. Non, ok. On va lire la contre. Attends. Hop. Alors, Thomas Legrand. Connaissez le grand Thomas Legrand quand même. La gauche doit-elle s'unir aux européennes? Ce serait une duperie et un naufrage assuré. Sur bien des sujets, les positions des partis de gauche sont trop éloignées pour qu'ils marchent ensemble en 2024. Un scrutin qui n'est de toute façon pas fait pour ça. Ah, j'en nous méprise. Oh non, dis pas ça, je vous aime. Vous savez que je vous aime. Du fond du cœur. Les composantes de la NUPES doivent-elles monter unies au front des élections européennes dans un an? Selon des sondages, le score d'une liste unique serait inférieur à celui de l'addition des résultats de quatre listes de gauche. Ah. LFI s'arc-boute pourtant en faveur d'une union. PS, PCF et Écolo sont pour le moins sceptiques sur cette stratégie. La question divise également nos chroniqueurs. Pour Jonathan Boucher-Petersen, l'union s'impose. Les électeurs de gauche la soutiennent et il serait hautement symbolique. Pour Thomas Legrand, au contraire, elle n'aurait aucun sens, tant les divergences entre les quatre partis sur l'Europe sont importantes. Intéressant. Intéressant. Les insoumis voudraient que la NUPES et ses composantes se présentent aux européennes sous une même bannière. Pourquoi pas, avec comme tête de liste un ou une écolo? Mais une liste NUPES n'aurait aucun sens. D'abord parce que les élus à l'issue du scrutin du 9 juin siégeront dans des groupes parlementaires différents. Et pour cause, sur l'Europe, sa construction, ses perspectives et sa philosophie, écologistes, socialistes, insoumis, n'ont pas les mêmes conceptions. Imagine-t-on Raphaël Glucksmann, député sortant, infatigable avocat de l'aide à l'Ukraine, faire liste commune avec des insoumis longtemps aveugles et sourds aux dangers poutiniens? Ce serait à la fois illogique et indécent. Thomas Legrand, il tape fort sur les insoumis, ça va pas leur faire plaisir. Au demeurant, il n'a pas tort, c'est difficile d'imaginer glucose avec les insoumis. Ouais, on peut le dire. On peut le dire, on peut le dire. On peut le dire. C'est pas faire insulte à qui que ce soit que de dire que c'est dur de les imaginer dans le même groupe à voter sur la même liste. De même. Les écologistes sont d'indécrottables fédéralistes, persuadés que la meilleure dimension pour agir en toute chose, singulièrement pour l'environnement, est continentale. Les insoumis, eux, souverainistes sociaux, considèrent que l'Union européenne impose, sous la férule libérale allemande, un dogme budgétaire mortifère. En conséquence, une campagne électorale unitaire, quelle que soit la tête, serait un chemin de croix. Les listes concurrentes et la presse n'auraient aucun mal à souligner les incohérences d'une équipe qui ne tarderait d'ailleurs pas à se contredire. Ça, c'est vrai. Moi, je connais un petit con sur Twitch qui fait des émissions politiques, là. Je le connais, hein. Ce serait le premier à pointer du doigt les incohérences de la liste unique en disant, mais attends, comment ça, il y a glucose sur la même liste que machin? Ah non, je le connais, hein. Pas sympa pour Host. J'avoue. J'avoue. La matinale d'Host. Je parlais de la matinale d'Host, hein. Je parlais pas de. Je sais pas à qui vous parlez, moi, mais. Ah oui. Donc Donc, incohérence d'une équipe qui ne tarderait d'ailleurs pas à se contredire, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On comprend mieux pourquoi les Insoumis ne revendiquent pas de conduire cette éventuelle liste. Ah bah oui. Quant à l'hypothèse Ségolène Royal, pardon, comme figure de proue, ces prises de position erratiques sur le Covid ou la guerre en Ukraine seraient impossibles à assumer par les socialistes et les écologistes. Oui, non, mais la tête de liste Ségolène Royal, moi j'ai entendu le bruit courir, pour moi c'était plus une blague qu'un bruit qui court. On sait encore faire la différence entre une rumeur sérieuse et une blagounette qui est juste faite pour faire rigoler ton interlocuteur. C'est comme quand moi je vous dis « l'hypothèse valse », ça vous avez conscience que c'est une blague, c'est pas une analyse. Voilà. Et puis il y a les sondages. Argument fragile un an avant un scrutin qui, de surcroît, n'est guère mobilisateur. Tout de même, il se trouve que des listes séparées recueilleraient au total plus d'électeurs, donc d'élus qu'une liste unique. Mais c'est quoi comme sondage ça, Thomas ? Tu peux nous mettre le lien ? Des listes séparées recueilleraient plus d'électeurs qu'une liste unique. L'argument insoumis selon lequel ne pas être unis pour les européennes affaiblirait la perspective d'une candidature unique à la prochaine présidentielle ne tient pas non plus. Comment se présenter en concurrence à un scrutin fait pour cela, proportionnel intégral, empêcherait-il ces quatre formations de tenter de se sélectionner un champion commun 3 ans après ? Moi, ça, je suis d'accord avec Thomas Legrand. Hein. L'argument de « si on n'est pas ensemble aux européennes, c'est mort, on peut pas être ensemble à la présidentielle », j'ai envie de dire, franchement, je vous rappelle que la gauche était désunie comme Jaja en février, et qu'en juin, ils étaient copains-copines, bras-dessus-bras-dessous, ils ont créé la NUPES, en 2 semaines. Comme quoi, hein ? Bon. La gauche met tellement des plombes pour s'unir. Oh, regarde la NUPES, encore une fois, la NUPES, ça a été plié en 1 semaine. Et la gauche a perdu. Ah bah parce que c'était encore un peu trop, c'était encore un peu trop récent. C'était encore un peu trop récent. En réalité, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas que le rapport de force très avantageux issu de la présidentielle soit réactualisé par un scrutin censément plus favorable aux socialistes et aux écologistes. Ah ça c'est pas faux. Ah ça c'est pas faux. Ah ça c'est pas faux. Mais pour le PS, une liste unique serait une catastrophe puisque son aile non NUPES, Bernard Cazeneuve est une bonne partie des maires socialistes des grandes villes, serait tenté de présenter sa propre liste. Bernard Cazeneuve qui lance son propre parti samedi prochain, je vous rappelle. De plus, une liste avec un Mélenchon en incessante surenchère serait un repoussoir pour tout le caucus du macronisme de gauche, et ils sont nombreux, qu'il faudra bien accueillir. De retour au bercail, le diktat mélenchonien selon lequel pas de liste unique serait la fin de la NUPES devrait, en toute logique, tuer surtout l'idée de la liste unique. Je réfléchis. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas que le rapport de force très avantageux issu de la présidentielle soit réactualisé par un scrutin censément plus favorable aux socialistes et aux écologistes, ça c'est vrai. Ça, je suis assez d'accord pour dire que les insoumis préféreraient sans doute éviter de passer de 22% à la présidentielle à un 6-7% post... Oh, je suis méchant. 6-7%, non, peut-être 10%. Poste Quatennens. Ouais. Non, mais ça c'est vrai. Parce que pour derrière, pour faire des... Enfin, bref. Non, mais oui. Oui, alors les macronistes de gauche, je les cherche encore en 2017, je veux bien. Bah. Sur des électeurs modérés qui seraient les premiers à accepter de voter pour quelqu'un d'autre que Macron et qui iraient plutôt le chercher à gauche, Jean-Luc Mélenchon, c'est plus un repoussoir qu'autre chose. Ça, on peut le comprendre. Ceci étant, combien ils sont, je sais pas. Non, ouais, il pourrait se retrouver sur une liste Cazeneuve, quoi. Non, puis par ailleurs, je suis pas sûr que les électeurs macronistes de gauche, quel que soit leur nombre, je m'en fous, aient vraiment tant de reproches que ça à faire à Macron sur l'Europe. Justement, s'il y a peut-être une dernière élection à laquelle ils sont prêts à voter pour Macron, c'est sur les élections européennes. Parce que Zelensky, parce que l'Ukraine, parce que le Covid, parce que... Enfin, sur la question européenne, pour le coup, je pense que les macronistes sont quand même assez unis. Donc, à la limite, au municipal, tu vois, je suis d'accord. Au municipal, clairement, les électeurs macronistes de gauche, c'est les premiers à dire « Écoutez, les macronistes, vous êtes gentils, mais moi, je vais voter pour le socialiste sortant. » Vous voyez ? Je sais pas. Bon, en revanche, je suis d'accord avec l'analyse qui est de dire « Ça fait chier Olivier Faure que Bernard Cazeneuve crée une liste parce que Bernard Cazeneuve pourrait, lui, devenir un aspirateur à voix modérée. » Bon, alors de là à voir Bernard Cazeneuve faire plus de 5%, j'y crois pas un quart de seconde. Mais bon, on sait jamais. Ça peut être surprenant. Forceur, le cruel qualificatif trouvé par Marine Tondelier à propos d'LFI et de ses velléités d'union se vérifie à chaque déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Oh, il est acide, Thomas Legrand. Thomas Legrand, tu forces, là. C'est le cas de le dire. Bon, est-ce que t'as tort? C'est un autre sujet. Olivier Faure, qui semble comme souvent tétanisé par les injonctions mélenchoniennes, a produit hier un tweet de réponse incompréhensible. Qu'est-ce qu'il a tweeté comme connerie encore, Olivier Faure? Chloé, tu peux empêcher Olivier Faure de tweeter n'importe quoi? Thomas Legrand, il n'a pas compris le tweet. On sait qu'il ne veut pas de liste unique, mais n'ose pas le dire. Une liste PSELV sans les insoumis ou quatre listes individuelles. Cette dernière possibilité serait, dans la logique de la proportionnelle, la meilleure façon d'envoyer en toute cohérence le plus de parlementaires de gauche à Strasbourg. Pourquoi ne pas prendre les électeurs pour des adultes? Pas d'inquiétude, le soir, les résultats, ils sauront faire les additions. C'est donc l'analyse de Thomas Legrand. Intéressant. Thomas Legrand qui propose une série d'arguments justifiant selon lui le fait que ce n'est pas nécessaire de faire une liste d'union pour les européennes, pour les partis de la NUPES, que ce serait même contre-productif. Prenons les électeurs pour des adultes, ils savent faire des additions. Pas convaincu, je suis assez d'accord avec lui. Bof, pas convaincu. Le petit chat, t'en penses quoi? Elle n'a pas encore d'opinion. Il a raison, d'accord. Ok pour moi, il a raison. Bof, pas convaincu. Ok. Convaincu sans. Convaincu. Associé pro et anti-Europe, bizarre. C'est là où... Bon, on va voir la deuxième tribune, mais... Le deuxième édito, c'est là où je pense qu'il faut faire preuve de subtilité. Je pense pas qu'on puisse réduire les insoumis à des anti-Europe. C'est un peu trop facile. Disons que c'est une facilité d'analyse en disant « Ouais, c'est des eurosceptiques les insoumis. » Non, c'est des gens qui ont une critique radicale du néolibéralisme de l'Union européenne qui les emmène parfois jusqu'à des postures qui ressemblent fortement à de l'euroscepticisme. Genre à gueuler contre le drapeau, etc. Machin. Oui, bon, d'accord, ok, si vous voulez. Mais de là, en faire une doctrine politique, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et pareil, quand on dit que les socialistes ou les écologistes seraient des euro-BA, pareil, non, c'est pas des euro-BA, c'est les premiers à vouloir faire évoluer l'Europe, etc. C'est pas des néolibéraux absolus. Enfin, en tout cas, quand tu regardes leur vote et leur prise de position et ce qu'ils défendent au Parlement européen... C'est un peu facile de faire dans le cliché éternel dans un sens comme dans l'autre, quoi. Mais bon, ça vous le savez, on en a déjà parlé mille fois. On réduit toujours les gens avec qui on n'est pas d'accord à une simplicité de pensée que l'on rejette en bloc, alors que l'on reconnaît aux gens à qui on est d'accord une subtilité et une complexité que l'on dénie aux autres. C'est normal. Tout le monde fait ça, moi le premier, tranquille. Sur Internet? Non, personne fait ça sur Internet.
Ouais.
Tu veux dire que sur Internet, on aurait une sorte de penchant à réduire nos adversaires à des gros cons? Depuis 2012, Mélenchon a beaucoup changé sur l'Europe. Mélenchon a changé sur l'Europe depuis 2012. Oui. Est-ce qu'il a beaucoup changé? Ça, je te laisse en être juge. Mais oui, il a évolué. Il a évolué sur la question européenne. Il a mis de l'eau dans son vin, pour le dire assez clairement. D'autre part, depuis le Covid, il faut reconnaître que l'Union européenne a quand même beaucoup changé. Je vous invite à lire dans Le Grand Continent la table ronde que j'ai animée avec François Ruffin, Paul Magnette et l'immense Chloé Ridel. Tout le monde reconnaît le fait que l'Union européenne d'aujourd'hui n'est plus la même que l'Union européenne d'il y a 4 ans. C'est vrai. On a eu la fin des règles de discipline budgétaire, on a eu un emprunt commun, on a eu la guerre en Ukraine qui a redéfini complètement la géopolitique européenne et la diplomatie européenne. On a. Oui, l'Union européenne a changé pas du tout au tout, mais enfin, il y a eu un moment. Un moment faustien, je crois, pour reprendre le terme utilisé à l'époque par Jean Quatremer. Le Brexit en a calmé un paquet aussi. Oui, le Brexit aussi est moins sexy qu'il a pu l'être par le passé. Oui, c'est vrai, t'as raison. Le Brexit, ça fait rêver personne en Europe, là, le Brexit. Il y a eu une époque où en France, il y avait des gens qui voulaient surfer sur le Brexit britannique. Les François Asselineau, les Nicolas Dupont-Aignan, les Florian Philippot. Bon. Aujourd'hui. Marine Le Pen, ouais, Marine Le Pen, bien sûr. Oui. Oui, Marine Le Pen, oui, ça c'est vrai. Non mais Marine Le Pen, enfin bon, après Marine Le Pen, en fonction du contexte, hein. Après, elle est dans une stratégie de dédiabolisation, donc c'est aussi une spécificité tactique un petit peu particulière. Attendez, je regarde le petit chat. Hop. Grande surfeuse, oui. Je peux pas voir le petit chat. Bon, on lit la deuxième tribune maintenant qu'on a tous les arguments en tête de pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire de liste commune de la NUPES aux européennes. On lit l'autre tribune, celle de Jonathan Boucher-Petersen, également éditorialiste à Libé, mais qui lui a pris le contre-pied et a publié dans le même journal un point de vue divergent. Vergent. Malgré les divergences et les arrière-pensées, il faut défendre une liste unique des gauches qui aurait toutes ses chances de marquer les esprits en arrivant en tête du scrutin de 2024. L'union à toutes les élections, sinon la fin de la NUPES. On peut regretter cette oukase lancée lundi 5 juin par Jean-Luc Mélenchon à ses partenaires, dans l'interview que je viens de vous lire de Jean-Luc Mélenchon, pour les européennes de 2024, et y déceler un prétexte pour s'affranchir de ce cartel dans la perspective de 2027. Oh, tout de suite. Tout de suite, on fait un procès à Jean-Luc Mélenchon qui voudrait se débarrasser de la NUPES pour avoir le champ libre pour 2027. Une oukase, je sais plus ce que ça veut dire exactement oukase, mais une oukase, c'est une condamnation définitive, c'est pas ça? Une oukase, c'est un édit promulgué par le tsar. Oui, voilà, c'est ça, une oukase. Décision arbitraire, ordre impératif. C'est ça, en russe, ça désigne une décision du roi, enfin du tsar. C'est plutôt péjoratif, hein. Un oukase, c'est un ultimatum. Oui, c'est, oui. Ah, je pensais que c'était sur Vinted. Chafaud. Mange un cookie. Pour les européennes de 2024, machin, machin, machin. Mais la question de fond demeure. Celle de la pertinence d'une liste commune aux européennes plutôt qu'un bouquet de listes autonomes comme c'est l'habitude à gauche dans le scrutin à un tour. Disons-le d'emblée, la première option, celle de la continuité de l'unité entamée lors des législatives de 2022, nous apparaît la plus souhaitable. Parce que l'écrasante majorité des sympathisants de gauche défend cette option. 62% des électeurs du PS, 70% de ceux d'Europe Écologie Les Verts, 89% côté Insoumis et 90% pour les communistes, selon un sondage IFOP du mois dernier. C'est tout sauf un détail. Et parce que la politique, en particulier sur son versant électoral, est bien souvent une affaire de dynamique. Quelque chose est né avec la NUPES. La possibilité pour la gauche de jouer à nouveau en Ligue 1 à l'Assemblée, après un quinquennat où elle fut reléguée en Ligue 2. L'union, qui n'est pas l'uniformité, est un acquis fragile qu'il s'agit de chérir. Cette volonté d'avancer ensemble est une ambition qu'il faut faire vivre en évitant toute tentation hégémonique. À ce titre, au-delà du coup de pression de Mélenchon, il est plutôt constructif d'entendre les insoumis dire qu'une liste NUPES pourrait être construite par une écologiste et que chacune des composantes de la NUPES y serait représentée au prorata des résultats des dernières européennes, ce qui ne favorise pas les troupes de Jean-Luc Mélenchon. Auquel ce scrutin n'a jusqu'ici jamais souri. Jamais réussi, pardon. Comme les municipales d'ailleurs qui auront lieu en 2026. Je suis d'accord avec Jonathan Boucher-Petersen quand il dit « Avant de gueuler, commençons par nous réjouir collectivement d'entendre les insoumis ravaler un peu leur fierté. » Non, c'est pas comme ça qu'il le dit. Non mais, reconnaissons aux insoumis qu'ils font une vraie main tendue. C'est-à-dire que ils reconnaissent que la base de discussion, c'est pas 2022, c'est 2019. Donc ils débarquent pas avec leurs gros sabots de la présidentielle pour écraser la gueule de leurs adversaires, pas du tout. Et ils sont même d'accord pour laisser la tête de liste à quelqu'un d'autre, aux écologistes par exemple. C'est vrai que les insoumis arrivent à la négo avec des arguments. On peut pas leur reprocher ça. En même temps, bon, bref, il y a des contre-arguments. On va pas refaire le match avec la liste précédente, mais je suis d'accord avec Jonathan Boucher-Petersen qui dit qu'il faut commencer par souligner ça en disant on peut pas reprocher aux insoumis de la jouer hégémonique. La gauche en tête des européennes, voilà qui marquerait les esprits. Et qui battrait en brèche le scénario écrit d'avance d'un remake du duel entre le camp présidentiel et le Rassemblement national. À ce constat difficilement contestable, les partisans de listes autonomes permettant à chacun de défendre sa boutique et son identité, objectent que l'essentiel est d'envoyer un maximum d'eurodéputés de gauche au Parlement. L'argument s'entend, c'est vrai. Mais même si le total cumulé devait être plus élevé, le récit médiatique ne serait pas le même s'il faut agréger les résultats de listes qui auront chacune fait campagne dans leur couloir. A fortiori si cela consiste en partie à se distinguer de son voisin en lui tirant dans les pattes. Oui. Une liste unitaire pousserait chacun à une forme de discipline au nom d'un destin commun qui doit rester l'horizon au fil des élections pour espérer peut-être des lendemains qui chantent. Dans le cas contraire, l'échec de la NUPES à rester unie aura forcément le goût amer d'un coup d'arrêt. Ouais. Non, je comprends, j'entends. Ça cogne dur. Non. Non, ça cogne pas dur, là. Non, c'est intéressant. Discipline, bon courage. Non, mais c'est pas faux, ce qu'il dit. Il dit que si... Non mais ta gueule Siri, c'est pas à toi que je voulais parler. Pardon, excusez-moi. C'est pas faux ce qu'il dit. Il dit que s'il y a une liste d'union, tous les partis membres de l'union seront obligés d'y aller mollo sur la critique des autres. En gros, les insoumis que l'on sait facilement caricaturaux dans leur critique de l'Union européenne devront mettre de l'eau dans leur vin, en y allant mollo, et en reconnaissant que l'Union européenne peut être un échelon intéressant pour agir face à la Chine et aux États-Unis en faveur du climat, etc. De la même manière, les écolos, que l'on sait volontiers caricaturaux dans leur dénonciation de la radicalité des insoumis, devront mettre de l'eau dans leur vin et reconnaître publiquement que l'Union européenne, quand même, ça déraille à fond et que ce serait bien de la changer. Tout le monde est obligé de faire, d'accepter. Quand on joue collectif, on joue collectif, quoi. Alors que s'ils y vont séparer, alors là, ils vont en faire des caisses pour se foutre sur la tronche. Rappelez-vous 2022, rappelez-vous la présidentielle. Vous vous souvenez de la présidentielle? Comment les candidats de gauche, ils se tapaient sur la tronche sur le plateau de Baxit? Ça va pas laisser un bon souvenir. Et le nucléaire. Oh, tout de suite, les sujets qui fâchent. Non, mais ouais, s'il y avait une liste commune, même les insoumis de Twitter seraient obligés de lever un peu le pied sur le cyberharcèlement. Voilà, c'est ça, jouer collectif. C'est ça, l'esprit NUPES. Bon, bah. Et ça, effectivement, c'est un argument en faveur d'une liste d'union qui montre que, bon an, mal an, la politique étant ainsi faite, quand il s'agit de jouer collectif et que c'est l'intérêt de tout le monde, on sait le faire. Je suis d'accord avec Jonathan Petersen, ouais. Il ne s'agit pas de nier que l'Europe a toujours été un point de divergence, parfois indépassable, au sein de la gauche. Mais sans mettre la poussière sous le tapis au nom d'une unité totémique, et donc artificielle, la proposition de Manon Aubry, chef de file sortante des eurodéputés insoumis, d'élaborer un programme d'action commun apparaît comme une option vertueuse. C'est vrai. Manon Aubry qui était venue l'expliquer sur le plateau de Baxit, merci pour vos dons. D'ailleurs, vous avez pris vos places pour venir demain sur Baxit? Il reste des places. Venez. Ça va être trop bien. Non pas un en même temps bancal, mais une synthèse concrète sur des combats identifiés dans une logique de dépassement collectif. Alors que les eurodéputés de gauche votent déjà la plupart du temps à l'unisson, encore une fois, là il y a une voix crédible qui mérite un débat public en toute transparence. À l'inverse, si les écolos et les insoumis, pour prendre les deux partis les plus éloignés sur la question européenne, sont incapables de dégager du commun sur un sujet aussi structurant, quel sens cela aurait-il de soutenir un candidat unitaire lors de la prochaine présidentielle? C'est pourtant bien le projet réaffirmé par la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier. Je sais pas, parce que putain, cet argument, il remet de l'eau dans le moulin de l'argumentation de Jean-Luc Mélenchon qui est de dire s'il n'y a pas de liste unique aux européennes, il n'y aura pas de candidat commun en 2027. Encore une fois, je n'arrive pas encore à être convaincu par ce truc-là. Je n'arrive pas à être convaincu par cette idée-là. Je vois pas d'où elle vient. Je vois pas ce qui empêche des partis qui ne se sont pas présentés ensemble à une européenne de se présenter ensemble à une présidentielle. Question de cohérence idéologique. Ouais, les gars, c'est pas la cohérence idéologique qui étouffe les gens d'habitude, hein. Surtout pas en présidentielle, surtout pas quand c'est la gauche. Ah bon. Faut arrêter de nationaliser les élections européennes. Ah ça, c'est un autre débat. Non, non, je suis d'accord avec toi. Après, Jean, tu parlais des dynamiques. Partir en ordre décousu, c'est pas détruire la dynamique? Pas forcément. Non mais, je veux dire, pour votre vote à vous en 2022, est-ce que vous pensiez au scrutin de 2019? Est-ce que vous aviez ça en tête quand vous avez voté en 2022? Vous vous souvenez des dynamiques des municipales, des européennes, des départementales? Enfin, tu vois, pour des gens comme moi qui passent leur temps à penser politique, à réfléchir aux dynamiques, machin et tout, oui, évidemment. Mais pour les électeurs... Je suis pas en train de dire que je suis supérieur aux électeurs, etc. Au contraire, moi je suis un alien qui pense à ça toute la journée. Mais pour des électeurs qui regardent les choses différemment, est-ce que les électeurs, ils accordent autant d'importance que ça à la question de savoir est-ce qu'on était unis ou pas la dernière fois pour des élections différentes? Mmh. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Peut-être. Bon. Quant au risque d'une dispersion des voix de gauche, avec notamment la constitution d'une liste social-démocrate tendance Bernard Cazeneuve, on a du mal à y voir un argument de poids. Oui, non, c'est vrai. Encore que, Cazeneuve fait la surprise. Parce que rien n'assure qu'une liste autonome du PS suffirait à assurer sa non-participation au scrutin. Et parce que son espace... Oui, en plus, c'est vrai, ça. Et parce que son espace politique reste très limité dans une élection européenne où il aurait bien du mal à se distinguer de la ligne présidentielle. Ça, c'est vrai. Alors ça, je suis complètement d'accord. Alors franchement, qu'est-ce que Cazeneuve va pouvoir nous proposer de différent des macronistes sur les questions européennes? Je dis bien sur les questions européennes. Franchement... Si le dernier congrès du PS a laissé le parti coupé en deux, répétons que les sympathisants de gauche, socialistes compris, soutiennent très largement l'unité dans le cadre de la NUPES. Et si les écolos tendance Jadot devaient se lancer en solo sur un credo fédéraliste, ils auraient à porter la charge de la désunion. En l'état, c'est une responsabilité que la direction d'Europe Écologie Les Verts semble être prête à prendre. On peut à la fois le comprendre et le regretter. Pareil, même réponse que celle que j'ai faite à Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas totalement persuadé de l'argument qui consiste à dire c'est celui qui divise qui va payer le prix de la désunion. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je demande à être convaincu. Ils peuvent pas se préparer séparément et s'unir en poste. Non, non, bah non, bah on sait déjà qu'ils siégeront pas dans le même groupe. Hein. Pareil, est-ce que l'électeur de base prend vraiment ça en considération? Encore une fois, ouais, non, je sais pas. Là aussi, faisons pas l'erreur de penser que l'électeur de base, il arrive le jour J dans le bureau de vote et il découvre du jour au lendemain qui sont les candidats et il vote en fonction de ses convictions. Non, les électeurs de base, comme on dit, ils suivent les dynamiques. Évidemment que les dynamiques, c'est important, et je reconnais qu'une dynamique, ça a du sens, ça pèse, etc. Tu rentres trop dans les détails, 90% ont pris 30% d'inflation et veulent entendre parler de pouvoir d'achat, mais pas de manœuvre politique. Là encore, je suis d'accord avec toi pour dire que le pouvoir d'achat est la priorité pour les électeurs, je suis d'accord. De là à dire que les électeurs votent tous en fonction de quel est le candidat qui leur propose le plus de pognon à la fin du mois, c'est un chouïa plus compliqué que ça, je pense, quand même. Quand même. Moi, je reconnais toujours l'autonomie des électeurs qui choisissent pour les raisons qui sont les leurs, et tous les électeurs n'ont pas les mêmes raisons. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des électeurs qui ont des comportements erratiques, que l'on peut considérer erratiques vu de l'extérieur, mais qui pour eux est très cohérent. Chacun a ses raisons. Et je vous rappelle qu'en politique et en démocratie, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises raisons, il n'y a que des raisons personnelles de choisir des candidats. Et chacun ses contradictions. Et chacun ses contradictions. Absolument. Non, non, mais absolument. Je pense pas que la désunion d'Europe Écologie Les Verts aux européennes aurait un impact sur la NUPES, surtout que la participation aux européennes est exécrable, contrairement aux présidentielles. Je pense que ça aurait quand même un impact. Combien de temps durerait cet impact, je ne sais pas. Si ça se trouve, en un été, c'est réglé. Pourquoi il y a des gens qui sont pas de mon avis? C'est vrai. C'est une grande question, ça. Parce qu'ils sont dans l'erreur. Pas convaincu par le relativisme. Non, mais je relativise pas par rapport à mes opinions à moi. Hein. Moi, j'ai des opinions très claires et j'ai pas beaucoup de. Je n'ai pas une haute opinion des gens qui pensent pas comme moi. Voilà, déjà, par principe. Je suis un twittos comme un autre. Hein. À un moment, je suis pas meilleur que les autres. Hein. Je suis assez standard. De ce point de vue-là. Non, mais je. Non, non, tout ce que je dis, c'est que les électeurs font des choix en leur âme et conscience par rapport à des critères qui sont les leurs. Et c'est tout, en fait. C'est tout ce que je dis. Et on fait tous, à notre manière, des compromis avec nous-mêmes, en assumant plus ou moins bien nos contradictions personnelles, quand on vote, hein. Je connais des gens qui ont voté Mélenchon alors qu'ils n'aiment pas du tout Mélenchon. Mais ils estimaient que c'était le mieux placé pour éventuellement éviter un second tour Macron-Le Pen, etc. Bon, bah, c'est un choix qu'ils ont fait, c'est cohérent, ça se positionne, c'est pas absurde. Je dis qu'il n'y avait pas de mauvaise raison de voter. Non, il n'y a pas de. Le vote est l'expression d'une volonté, c'est pas l'expression d'une connaissance. Donc personne n'a raison, personne n'a tort. Quand vous mettez un bulletin dans une urne, vous n'avez ni raison ni tort. Vous émettez un choix, vous émettez une volonté. Vous dites ce qui relève du désirable pour vous, du souhaitable. Mais c'est pas, vous n'avez pas ni raison ni tort. Hein. Les racistes qui votent racistes. Bah, ils ont ni raison ni tort, ils sont juste racistes. Ils votent en cohérence avec leurs opinions. Bon, bah voilà, c'est pour leurs raisons à eux. Ils ont les leurs. C'est pas les miennes, mais ils ont les leurs. Quid des abstentionnistes? Ben, j'en sais rien, par définition on peut pas parler à leur place. C'est pas un délit le racisme, c'est l'expression du racisme qui est un délit. Pour moi, les personnes allant voter sans s'être informées sur rien ont tort, car ils n'expriment d'autre opinion que leur a priori. C'est ta manière de voir les choses. Hein. Peut-être qu'eux, ils pensent que toi, tu te branles un peu trop la nouille, alors que leur vote, il est évident. Tu vois? Voter RN n'est-elle pas une expression du racisme? Bah, pas forcément, parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas être racistes à titre personnel, mais voter quand même RN, auquel cas, ce sont des gens qui s'arrangent du racisme. Vous savez, c'est un nuancier de couleur, hein, c'est le cas de le dire. Non, c'est un nuancier de gris. C'est pas binaire, raciste par raciste. Il y a des gens qui, même si à titre personnel, ils aiment pas trop le racisme, sont prêts à soutenir des racistes parce que contextuellement, ils estiment que. Enfin voilà, ils font un compromis avec eux-mêmes. Puis il y a des gens qui compromettent pas avec ça en disant, bah non, le racisme, c'est mort. Tu vois, c'est. C'est sur Twitter récemment que je me suis fait prendre par la veste parce que j'ai répondu à quelqu'un en disant. Enfin, il y a quelqu'un qui me disait je m'arrangerai du racisme. Je m'arrangerai du RN au pouvoir. Si Marine Le Pen devient présidente de la République, je m'en arrangerai. Bah, écoute, c'est. J'ai envie de dire tant mieux pour toi. Moi, je m'en arrangerai pas, mais c'est mon point de vue. Hein. Je transige pas avec le racisme, mais c'est un point de vue. Le privilège blanc. Voilà, bon, apparemment, il n'était pas blanc, le mec. Mais bon. Autant dire que s'il y a des non-blancs qui s'arrangent du racisme, ça fait les affaires du RN, alors là. Rappelons tout de même que les vrais racistes sont les antiracistes. Ah oui, c'est vrai. N'oublions pas. À chaque fois, j'oublie, putain. Je passe complètement à côté de mes analyses. Les vrais racistes, je vous rappelle que ce sont les antiracistes. Et les vrais antiracistes, ce sont les racistes. D'accord? N'oubliez pas ça, hein. J'en vois trop souvent qui oublient. Mets-toi une alerte sur ton téléphone pour y penser. Non, non, mais il faut que j'y pense, hein. Faut que j'y pense. T'as raison, je vais mettre une alerte. À chaque fois, je... Tu vois, on présente Pétain comme un collaborateur du nazisme, alors qu'en fait, c'était un résistant. Et le vrai collabo, c'était De Gaulle. Je sais, c'est un peu compliqué à se matérialiser, mais faut pas oublier ça. Oui. J'avais juste mal compris. Ah oui, bah oui, mais non. Mais non. Vous aviez mal compris. Mon attention a drop et je reviens sur ça. Tu veux nous énerver? Ah bah attends. Merci Pétain qui a résisté à l'ultra-gauche terroriste finalement. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Bah oui, parce que dans national-socialiste, il y a socialiste. Donc c'est bien la preuve qu'Hitler était de gauche. Donc Pétain a résisté à l'ultra-gauche qui était au pouvoir en Allemagne entre 1933 et 1945. Concentrez-vous un peu, s'il vous plaît, par contre, parce que là, je sens qu'il y en a parmi vous qui a dissipé. Voilà. Il n'y a pas plus antiraciste que les racistes. Il n'y a pas plus pro-business que les communistes. Les communistes, c'est les vrais capitalistes. Faut oublier ça. Les mascus sont les vrais féministes. Oui. Les mascus, c'est des vrais féministes. Parce qu'ils veulent libérer les femmes des wokistes, qui sont les vrais masculinistes en réalité. Parce que mettre la femme dans la cuisine et la faire cuisiner et faire des enfants, c'est finalement lui offrir la liberté d'être ce qu'elle est vraiment. Oh putain, la vache. J'apprends à. C'est pas facile, hein, parce que il faut que je déconstruise 30 ans d'éducation et de lecture, etc., pour me mettre à jour de la nouvelle pensée. Nous sommes dans la matrice. Ah ouais. Je suis un mascu qui s'ignore. Ah, tu croyais que t'étais féministe? Ah, mais non, en fait, t'étais un mascu. Ah non, mais tu te rends pas compte. The cake is a lie. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver sur le live. Ah oui, pardon, excusez-moi, je suis en train de faire de la réinformation. Faut déconstruire la déconstruction. Ah bah les vrais déconstruits sont les construits. Non mais ça devient chiant au bout d'un moment. Non mais c'est bon, bref. Non c'est bon, fin de la blague, fin de la blague, fin de la pause. Stop, arrêtez. Arrêtez parce que là vous embrouillez les jeunes. Je vous sens, vous êtes... Voilà, temps mort. Attends, Jean, il y a CNews qui va t'appeler pour intervenir. Oui. Les vrais démocrates sont les antidémocrates et vice-versa. Bon, arrêtez, ça suffit. Ça suffit. J'essaye de mettre à jour la webcam pour voir le petit chat. Regardez. Regardez, on fait un interlude petit chat parce que là, je vous sens. Regardez, le petit chat, il est là. Donc là, elle est derrière la porte, là. Et elle écoute ma voix. Ça va, le petit chat? Elle n'ose pas passer la tête, mais elle entend ma voix. Le petit chat. Voilà, elle est dans l'entrée de la cuisine. Ça progresse bien, hein? Et il parle à qui ce con? C'est vrai que ça doit être bizarre pour elle. Pourquoi est-ce qu'il parle à l'écran? Pourquoi il parle à l'ordinateur? C'est bizarre. C'est quoi ta cam? C'est une cam Xiaomi, tu sais, c'est les caméras de surveillance de domicile, là, un peu naze. Truc à 30 balles. Est-ce qu'il miaule pour avoir de l'attention? Non, 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 elle miaule jamais. Elle miaule jamais. Mais je vous dis, non, non, ça progresse, puisque là, depuis la semaine dernière, on a des jeux de regard. On se regarde. Elle a toujours peur de moi. Mais maintenant, elle accepte plutôt que de fuir en courant dès que j'arrive. Quand j'arrive doucement, en tout cas, elle reste, elle me regarde comme ça. Du coup, je m'assois par terre, à un bon 3-4 mètres d'elle, et elle reste là. Elle me regarde. Après, elle bâille, elle se détend un peu, et elle finit par se barrer. C'est pareil avec mon crush. C'est une excellente nouvelle. Oui, non, non, ça progresse, ça progresse. Ça progresse. Ça prend du temps, mais ça progresse. À ce rythme, tu pourras la caresser dans 5 mois. Bah écoute, on verra. C'est un sketch de bref, votre relation. Ah bah, ça fait quand même 3 mois hein, que j'ai littéralement pas vu le petit chat pendant 3 mois. Donc là, je suis très content. Maintenant, je la vois. Il y a du regard. Tu l'as récupéré à la SPA? Non, non, c'est une autre association. Bon, enfin, c'est pareil, ouais. Re, on parle de quoi, The Moment? On parle du petit chat. On parle du petit chat. Ce serait drôle qu'elle devienne accro au câlin par la suite. Ah bah, j'espère. Donne-lui de la pâtée en étant à côté sans la toucher. Ah, c'est ce que je fais, mais alors attends, parce que à côté, ça dépend. Si je pose la pâtée à côté de moi, elle viendra jamais la manger. Hein. Il faut que je pose la pâtée à 3-4 mètres de moi pour qu'elle accepte de la manger devant moi. Donc en sachant que je suis là et que je la regarde, mais il faut que ce soit loin. Et même en général, si je lui mets la pâtée, elle attend que je m'endorme avant de la manger. Franchement, c'est encourageant. Oui. Non, mais je pense qu'il y aura un gap. Bon, là déjà, il y a un petit gap qui a été passé puisqu'elle accepte de me regarder. Donc elle ne fait pas tout au bruit. Avant, elle m'entendait bouger, elle fuyait pour se cacher. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je pense qu'il y aura un gap le jour où elle osera être dans la même pièce que moi. Là, pour l'instant, elle est terrorisée à l'idée d'être dans la même pièce. Mais viendra un moment où elle acceptera de se poser là, par exemple, sur le fauteuil jaune derrière moi pendant que je stream. C'est-à-dire pas loin de la cuisine, donc elle pourra déguerpir vite si jamais elle a peur ou un truc comme ça. Mais là, pour l'instant, elle se met dans la pièce d'à côté et c'est déjà une victoire. Tu as recueilli le petit chat d'une famille qui donnait un mauvais traitement. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est pas un chat qui a reçu un mauvais traitement, c'est un chat adulte que j'ai recueilli, qui a toujours vécu à l'extérieur en fait. Qui a toujours vécu à l'extérieur, elle n'a jamais eu d'humain. Elle a absolument jamais eu d'humain. Elle a jamais connu le plaisir des petites caresses sur le ventre. Elle sait pas ce que c'est. Donc elle a toujours vécu à l'extérieur, sauf qu'elle est tombée malade et que maintenant il faut plus qu'elle soit à l'extérieur, il faut plus qu'elle soit en contact avec d'autres chats. Elle a jamais possédé d'humain. Non, elle a jamais possédé d'humain. Elle n'est pas sociabilisée. Bah ouais, en gros, c'est ça. Et pourquoi elle s'est retrouvée adoptée? Bah parce qu'il y a une association qui l'a recueillie. Elle est FIF plus, ouais, elle est FIF plus, et en plus, elle a un calicivirus. Qui a été soignée, donc tout va bien. Peut-on dire que Mélenchon est de gauche? Bah, si on a envie, ouais. Après, bon, si t'es communiste, révolutionnaire, autogestionnaire et anarchiste, tu peux considérer que Jean-Luc Mélenchon est de droite, hein. Mec se présente aux élections, il fait secouer des drapeaux bleu-blanc-rouge à ses partisans pendant les meetings. C'est un ancien sénateur, il a été ministre du gouvernement qui a le plus privatisé de l'histoire de la Ve. Oui, Jean-Luc Mélenchon est un au mieux un sosdem, au pire un gros droitard. Tu vois, quand je te dis que c'est relatif, le positionnement. C'est subjectif, relatif et évolutif. Peut-être que Mélenchon non plus n'a jamais eu le plaisir des gratouilles sur le ventre. Les mots ont quand même un sens, droite et gauche, même droite et gauche. Le droite et gauche en politique sont des conventions. Il n'y a pas de définition objective, absolue, éternelle et universelle de ce que c'est que la droite et de ce que c'est que la gauche. Ce sont des conventions. D'ailleurs, c'est comme la droite et la gauche en géographie, hein. C'est des conventions. C'est pas. C'est-à-dire que ce sont des mots sur lesquels les êtres humains se sont mis d'accord pour convenir d'un sens, de manière à se comprendre quand ils se parlent. C'est ça une convention langagière. C'est quand même vachement pratique d'être d'accord sur ce que c'est que la main droite par rapport à la main gauche quand il s'agit de donner des directions à quelqu'un pour qu'il se repère dans l'espace. Donc il y a une convention. On a tous accepté que ça c'est la main droite et ça c'est la main gauche. Et ben en politique c'est pareil. Il y a une convention qui fait que par convention on appelle gauche. Les camps politiques qui s'assoient à la gauche du président de l'Assemblée nationale dans les républiques parlementaires françaises et qu'on appelle droite ceux qui s'assoient à droite, ceux qui s'assiedent à droite. Ensuite, par observation, on peut constater un certain nombre de traits communs entre ces camps politiques, des clés de lecture du monde, des philosophies politiques, beaucoup de choses. Et on constate aussi que ça évolue avec le temps. Tout. Dire que Mélenchon est de droite, c'est faux. C'est ni vrai ni faux. C'est un point de vue. C'est un point de vue qui n'est pas partagé par grand monde. Cette convention gauche-droite, on la retrouve la même en Europe ou ça varie selon les pays? Bah, par contre, là aussi, au fur et à mesure du temps et avec l'affirmation des régimes parlementaires dans le monde entier, pratiquement, on a commencé à avoir des mimétismes. Et on retrouve des conventions assez similaires dans beaucoup de pays, ouais. Après, les sujets sur lesquels se positionnent les clivages politiques évoluent avec le temps et changent selon là où tu es dans le monde. En grosso modo, pour faire simple, au cours du XXe siècle en Europe, on a surtout posé la question de l'économique et du social, des enjeux économiques et sociaux. Mais c'est un enjeu qui peut être différent dans d'autres pays pour d'autres raisons. T'as des pays, par exemple, dans lesquels la question se pose en termes d'indépendance ou de lien colonial avec une puissance. Les républicains aux USA ont pas mal évolué, par exemple. Oui, et les démocrates aussi, bien sûr. Pourquoi certains disent que Mélenchon est d'extrême gauche? Parce que c'est un point de vue qu'ils ont. Il qualifie Jean-Luc Mélenchon d'extrême gauche parce qu'il considère que la radicalité de ses propositions, la virulence de ses postures suffisent à considérer qu'il est en dehors de l'arc habituel de la gauche et de la droite et qu'il se place à l'extrême gauche. Est-ce que tu as des exemples en Europe pour les clivages différents? Alors, je pense que l'Ukraine, en ce moment, ils sont plus trop sur des enjeux économiques et sociaux, ils sont davantage sur des enjeux liés à la guerre, par exemple. Merci, Textor Axel. Merci, Noise. Bah regarde, tiens, regarde la Serbie, le Kosovo en ce moment. Très bon exemple. Alors le problème malheureusement de l'ex-Yougoslavie, c'est que il y a beaucoup de votes selon des communautés ethniques et religieuses. Donc bon. Les Serbes de Bosnie, les Serbes du Kosovo surtout. Il y a même des pays où le clivage se fait entre régime religieux ou laïque, oui, bien sûr. Est-ce que l'étiquette gauche-droite est si importante finalement? L'essentiel sont les idées défendues. Non, mais c'est pas une question. En fait, ça n'a pas d'importance, encore une fois, dans l'absolu. On s'en fout. C'est des conventions pour se parler. Donc c'est mieux quand on se comprend, quand on se parle. Parfois, on ne se comprend pas toujours parce que des gens remettent en cause la convention, ont adopté d'autres conventions, etc. C'est sûr que entre Éric Zemmour, qui considère que Marine Le Pen est une femme de gauche, et je sais pas quel anarchiste qui va considérer que Jean-Luc Mélenchon est un mec de droite, la convention est un peu compliquée. Ils vont avoir du mal à se parler. Parce que les conventions ne sont pas assez régulièrement définies. Bah, c'est-à-dire que il n'y a pas d'autorité supérieure qui détermine. Il n'y a pas d'autorité supérieure qui détermine. Après, il y a quand même des auteurs de doctrine, donc que sont les chercheurs. Il y a des historiens, il y a des sociologues, il y a des chercheurs en sciences politiques qui sont assez bien placés pour observer. Justement, les mutations de ces clivages pour mettre à jour les conventions et en discuter. Et c'est pour ça qu'il y a une recherche permanente et une réinterrogation permanente des clivages et de leur organisation et des rapports de force dans le paysage politique. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de chercheurs en sciences politiques qui ne place pas le Rassemblement national dans le camp de ce qu'on appelle la droite radicale. De son histoire, de son corpus, de ses postures, même s'ils reconnaissent tous, parce que c'est une évidence, que c'est un camp qui est en phase de dédiabolisation, souhaitée, c'est une stratégie qui est mise en œuvre depuis 10 ans, etc. Mais après, il y a des débats sémantiques intéressants entre les chercheurs pour savoir s'il faut parler de national-populisme, parlant de Jean-Marie Le Pen. Mais bon, après, quand on rentre, enfin, c'est tout l'intérêt aussi des chercheurs, c'est qu'ils rentrent un peu plus dans le détail que vous et moi, et que du coup, ils s'interrogent et ils débattent. Ils ont des échanges académiques pour savoir s'il convient ou pas de trouver des mimétismes entre les extrêmes droites de tous les pays d'Europe. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre l'extrême droite hongroise, le national-populisme français, le néofascisme italien? Bah, on peut écrire une thèse entière là-dessus. Du coup, le principe de la République, est-ce un but ou un principe ou une finalité? De quoi est de gauche? De droite ou de gauche? La République, c'est un régime politique fondé sur plusieurs choses. Déjà sur la reconnaissance des droits reconnus aux personnes. Et sur un principe d'exercice démocratique du pouvoir. Ce que je viens de dire sous-entend énormément de choses, mais je vais pas rentrer dans le détail, sur la hiérarchie des normes, sur l'état de droit, sur les institutions, les séparations des pouvoirs, ou plutôt l'équilibre des pouvoirs, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour faire très simple, c'est un mode particulier d'exercice du pouvoir, la République, qui sous-tend la démocratie. Est-ce que c'est droite ou de gauche? L'histoire française de la République et de son affirmation s'est construite plutôt à la gauche de l'hémicycle politique, dans un contexte qui était celui de son siècle. Voilà. Au XIXe siècle, être de gauche, ça voulait dire être républicain. Être de droite, ça voulait dire être monarchiste ou bonapartiste, avec un milliard de nuances. Au XXe siècle, la question s'est déportée de la question institutionnelle vers la question économique et sociale. Et être de gauche ne voulait plus simplement dire être républicain, mais voulait davantage dire être socialiste. J'utilise le mot socialiste dans son acception première, c'est-à-dire en gros de 1850 à 1800, à 1921. Ça veut dire en gros, tu mets dans le même sac les socialistes, les communistes, les révolutionnaires, les anarchistes. C'était le camp du travail, c'était le camp du mouvement ouvrier, etc. Voilà. Et être de droite, c'était être davantage libéral et conservateur. D'un point de vue économique et social. Il s'est passé quoi en 21? En 21, il y a eu le congrès de Tours, qui a été un congrès du Parti socialiste, au cours duquel il y a eu un divorce. Il y a un mec qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon qui est parti à gauche. Non, je déconne, c'est pas vrai. Oh, ça m'en rigole. Non, non, en 1921, il y a eu le congrès de Tours au cours duquel les communistes et les socialistes se sont séparés. Communistes et socialistes se sont séparés sur fond de révolution russe, hein. La révolution d'octobre 1917, la prise de pouvoir par les bolcheviks, la création de l'internationale communiste. La question s'est posée pour les socialistes français de savoir est-ce qu'il faut rejoindre les bolcheviks de Moscou dans leur révolution ou est-ce qu'il faut leur résister et leur opposer à un socialisme français qui garde les acquis de la République. Bon, et bien sur cette question précise, il y a eu un schisme. Ceux qui étaient d'accord pour rejoindre les bolcheviks russes dans leur internationale communiste ont quitté le Parti socialiste pour créer le Parti communiste français. Et ceux qui n'étaient pas d'accord pour abandonner les idéaux républicains français et qui voulaient les garder sont restés dans le Parti socialiste, qui à l'époque s'appelait encore la section française de l'Internationale ouvrière. C'est 1920 le congrès de Tours. C'est 1920 ou 21? Ah non, c'est 1920. On a fait le centenaire l'année dernière. Oui, c'est 1920. Oui, c'est 2021. Oui, c'est en décembre, oui, c'est à ça. Oui, c'est bon, c'est 2021. La création pile poil du PCF, c'est 21 et tout, mais bon, peu importe. Donc voilà, donc c'est depuis 1920 que les socialistes et les communistes sont séparés, dans deux partis différents. Et dans d'autres streams, je vous raconterai la folle histoire de comment ils se sont retrouvés, à plusieurs reprises. 1974. 1997. 2022. Quelles étaient les raisons de la scission en 1920? Bah, je te les ai expliquées. Je te les ai expliquées. Faut-il rejoindre la révolution communiste russe? Ceux qui répondaient oui devenaient communistes, ceux qui répondaient non devenaient socialistes. Voilà, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Ce serait trop bien un résumé du 20e. Un résumé du XXe siècle? La guerre? Re la guerre? L'Europe? Et la victoire de la France en 1998 à la Coupe du Monde de foot? C'est bien résumé. Le néant et puis Jean-Luc. Non. Superbe année 98. Ah bah ça. Ah oui, il y avait re-guerre. Il y avait re-re-guerre, mais froide. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça. J'ai oublié la guerre. Oui, c'est... j'ai oublié une guerre dans le... Excusez-moi. Donc c'est la guerre, re-la guerre, re-re-la guerre, mais cette fois-ci un peu plus froide. L'Europe. Et Vietnam. Ah oui, non, pardon, je suis resté sur l'Europe continentale. Hein. Pour l'instant, j'ai fait que... Là, je vous ai fait l'histoire du XXe siècle, version Europe. C'est vrai que je suis pas allé de l'autre côté du Pacifique. Oui, parce que bon, il s'est passé deux, trois autres trucs dans le monde, il y a eu la décolonisation, etc. Non, mais 30 minutes et pas 30 secondes, des centrés politiques en France. Eh, ce sera pour une autre fois, hein. Là il est 21h23. Moi je suis fatigué. Merci pour vos subs. Eh, demain matin, je vous rappelle qu'on se retrouve à 9h du matin. Attention, hein. Attention, je compterai les présents. Demain matin, 9h du mat, vous êtes présent dans le chat, hein. Je ferai l'appel, hein. Je vous rappelle que demain, on suit en direct les discussions à l'Assemblée nationale sur l'abrogation de la réforme des retraites. Ça va gueuler, hein. Ça va être une séance extrêmement mouvementée. Ça va être à base de rappel au règlement. Moi, je vais commencer le stream à 8h30, je pense. J'ai dodo, excuse-moi. Ah non, 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 vous mettez un réveil, hein. Je vous ai dit, vous mettez un réveil. Demain matin, vous mettez un réveil, hein. Vous mettez un réveil à 8h30, à 8h50, comme vous voulez. Moi, je vais commencer à streamer à 8h30 pour le café, tranquillement. On va se réveiller ensemble. Voilà. Et après, à 9h, on attaque. Et ça va barder, hein. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de follow la chaîne, si c'est pas déjà le cas. Et de vous abonner, c'est encore mieux. Comme ça, vous allez bien dormir. Les gens qui sont abonnés à ma chaîne dorment mieux en moyenne que les gens qui sont pas abonnés. Ça a été prouvé scientifiquement par une étude américaine et par une étude française du professeur Raoult, d'ailleurs, qui l'a démontré lui aussi. Voilà. Ah ouais, non, non. Tu nous fais un mot d'excuse pour nos employeurs? Techniquement, un employeur n'a pas le droit de vous empêcher de nourrir votre citoyenneté. Merci, Contrari. Je peux pas, j'ai les Totally Spies et Martin Mystère demain à 9h. Oh, vous êtes chiant. La grève, c'est un bon mot d'excuse. Ouais, voilà, faites grève. Merci pour vos subs en tout cas. On va faire le bon petit raid. Chez qui on raid? Il y a le Scrim Ascension sur Trackmania. Il y a des gens qui jouent à Diablo 4. Attends, je regarde. Il y a la Fabrique Auto. Il y a Sarah Coppona qui fait de la musique. Wingo? On va chez Wingo. Ah non, il y a la Comeback TV sur StarCraft 2. Ouais, non, je les ai déjà raid plein de fois. Sinon, il y a Jean Massier qui stream aussi, ça peut être sympa de faire connaître sa chaîne. Ah, c'est le mec qui parle de politique là? Hein? Il est sympa? Je connais pas. Voulez aller chez Micode? Bah vas-y, hein. Raid Micode, allez hop, raid chez Micode, c'est décidé. Merci à toutes et à tous d'avoir été là, c'était cool. Je vous fais des bisous. Merci pour vos subs et vos resubs. On se retrouve demain matin dès 8h30. Mettez un réveil pour la séance la plus mouvementée de l'histoire de la 5ème République à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été là. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain matin. Ciao, bisous.